Salut à toutes et à tous et bienvenue dans Fin du Game, l'émission qui va au bout des jeux. Moi c'est Hugo, je suis avec Exerve.
Salut.
Et je suis aussi avec Maxime.
Salut.
Comment ça va messieurs?
Ça va très bien.
Très bien.
Ouais.
Ah bah écoute, on peut pas démarrer mieux cet épisode, c'est parfait. Alors, on commence cet épisode, vous l'avez constaté, la semaine dernière, normalement il devait y avoir un épisode, vendredi dernier, mais malheureusement, nous n'avons pas pu assurer sa production. En fait, on était tout simplement un peu rush à la fin du mois de mai. Nous, on était vraiment dans le crunch de fin de production de Game Next Door. Et puis toi, Exerve, t'étais pas mal sur la route sur cette dernière semaine.
Ouais, bah j'ai fait des previews, puis il fallait que je fasse le jeu aussi, donc du coup ça m'a pris pas mal de temps, et comme j'ai été plusieurs reprises en petite preview ici ou là, ouais. J'étais un peu charrette, quoi, tout simplement.
Donc on a préféré décaler l'émission pour pouvoir être sûr de bien prendre le temps de la préparer et de vous faire quelque chose de qualité, comme d'habitude, on l'espère. La première bonne nouvelle, c'est qu'on atteint presque le premier palier, donc qui permettrait justement de garantir la régularité de l'émission. Donc le palier est à 300$. Je crois que là, au moment où on enregistre l'émission, on est à 284$, donc il nous manque vraiment un tout petit chouïa pour pouvoir atteindre ce palier et donc garantir la régularité de l'émission.
Et ce qui est positif, c'est que là, ces dernières semaines, il y a beaucoup plus de monde qui arrive sur le Discord quasiment quotidiennement. Il y a de plus en plus de gens qui nous font des retours, que ce soit sur Twitter ou quoi. Et on voit bien qu'en fait, même s'il y a des gens qui s'en vont du Patreon, il y en a d'autres qui arrivent et qui reprennent le flambeau. Donc bah merci beaucoup, on y est presque, hein. On va pouvoir bientôt commencer à... On pourra plus permettre comme ça de décaler bientôt les épisodes. Mais bon, le truc, c'est qu'au mois de mai, en fait, on s'était rendu compte que ça, on aurait dû faire 3 épisodes.
C'est ça, il y aurait 3 épisodes.
Ça tombait, on va dire que ça tombait bien exceptionnellement.
Un petit alignement de planètes là.
Exactement.
Sur cet épisode,
ouais. De toute façon, on anticipe toujours tout, hein. Fin du game, on a forcé Discord à utiliser la formule spoiler, on a offert tout le What Remains of
Edith Finch. Attention, on est prévu jusqu'à 2021 à peu près, je crois,
ouais,
sur le planning,
prévu.
C'est ça.
Ouais. Le fin du game cinématique univers est bientôt prêt, on est en phase 1 là, normalement.
C'est ça. Donc voilà, aidez-nous à passer en phase 2 en essayant d'atteindre ce premier palier. Et puis la deuxième bonne nouvelle, c'est qu'on a trouvé un partenaire pour Fin du Game, puisque cet épisode est sponsorisé par Third Edition, qui est une maison d'édition d'ouvrages consacrés aux jeux vidéo. Je crois qu'on les avait déjà mentionnés, il me semble. On avait parlé du livre sur Nier Automata, on avait parlé aussi évidemment du livre sur les Souls. Ça fait un moment qu'ils travaillent, je crois, ça fait quand même plusieurs années maintenant qu'ils ont publié pas mal de choses.
Ouais.
Voilà. Donc peut-être que vous les connaissez déjà. Nous, ils nous ont approchés parce qu'effectivement, l'approche qu'on a des jeux dans Fin du Game, elle se rapproche évidemment de ce qu'ils peuvent faire, eux, avec leur livre sur des sagas. Alors peut-être que l'audio, on va dire que c'est la première étape pour aller au bout du jeu. La dernière, pour aller encore plus loin, ça doit être les bouquins. Et puis en plus, on a quelqu'un qui travaille déjà, qui a déjà collaboré avec eux.
Et oui, j'allais dire,
c'est qui
Bah oui, du coup, oui, moi j'ai publié 3 livres avec eux, donc bon, voilà, c'est vrai que le rapprochement s'est fait de manière naturelle, on essaye d'avoir une approche analytique et avec un petit peu de prise de recul sur les jeux, eux aussi, bah du coup, eux ils sont contents parce que de toute façon on parle déjà de leurs bouquins, donc bah là en plus, l'avantage de ce partenariat, c'est que nous, bah ça va nous donner un petit peu de
un petit coup de pouce financier,
un petit coup de pouce au niveau financier, et surtout ils vont pouvoir nous envoyer leurs livres à la demande directement à leurs frais, et donc là, pas typiquement, ils nous ont envoyé 2 bouquins pour qu'on puisse préparer les prochains épisodes. Donc en termes de temps de préparation, nous, ça nous arrange pas. Par contre, en termes de qualité d'épisode, à la fin, normalement, on va pouvoir vous donner des informations encore plus quali, avec des citations, des éléments, etc. Et puis évidemment, faire référence aux bouquins. Si vous, ça vous intéresse, forcément, on vous dira d'aller les lire.
Voilà, c'est encore une manière de prolonger ce qu'on fait avec Fin du Game. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour parler de Prey, celui sorti en 2017. Un jeu riche, un jeu ambitieux, peut-être un peu trop. C'est ce qu'on va essayer de voir aujourd'hui. Alors, Prey, qui est sorti donc en 2017, c'est sorti en mai 2017, je crois, développé par Arkane, publié par Bethesda, et dirigé par Raphaël Colantonio, qui est le fondateur d'Arkane. Arkane, j'ai remarqué d'ailleurs qu'il y a 20 ans, ça a été fondé en fait en 99, donc c'est quand même un studio qui est un petit peu à l'ancienne, quoi. Leur premier jeu, c'était Arx Fatalis, qui est sorti
grand jeu.
En 2001, 2002.
C'est 2001.
Voilà.
Ouais.
Ils ont après bossé sur... c'est quoi, c'est Dark
Messiah of Might and Magic.
Pas facile à envoyer.
Ouais. Ubisoft, si je dis pas de bêtises.
Exactement, ouais. Avec une histoire extrêmement compliquée. On pourra peut-être faire une petite parenthèse, mais c'est assez rigolo, en fait, là, en y repensant, de voir que, à la fois avec Prey et avec Dark Messiah, ils ont eu des soucis avec des licences qui n'étaient pas les leurs. Ah ouais. Et essayer de faire des jeux à rentrer au chausse-pied dans des licences qui ne sont pas les leurs, et ça marche pas toujours.
Et après, ils ont connu une phase un petit peu compliquée. Ils ont bossé avec des publishers, avec des éditeurs sur d'autres projets qui ont eu un petit peu de mal à aboutir. Ils ont bossé, je crois, sur un DLC de Bioshock 2, il me semble. Et puis, jusqu'à qu'ils travaillent enfin sur Dishonored, qui a été vraiment leur premier gros succès, on va dire. En tout cas, un peu plus mainstream, où il y avait donc Raphaël Colantonio, qui était co-director, et avec Harvey Smith, qui lui avait travaillé sur Deus Ex, il me semble. Et puis ensuite, une fois que Dishonored est sorti, qui a connu quand même un certain succès commercial, en fait, ils se sont partagés le studio en deux. Il y a Harvey Smith qui est resté à Lyon pour bosser sur Dishonored 2, et il y a Raphaël Colantonio qui a pris une partie de l'équipe, et une partie qui était déjà là-bas à Austin, pour bosser sur Prey. En tout cas, sur ce qui allait devenir Prey, puisqu'à la base, c'était un projet que lui, il avait un peu en tête, et il y a Bethesda qui a collé le nom Prey dessus, puisqu'ils avaient racheté la licence. Je crois que c'était un jeu qui est sorti en 2006. Est-ce que vous le connaissez un peu, ce
jeu ? Ouais, moi je l'avais fait. C'était un FPS où tu incarnais un Indien. Donc un Amérindien, tu vois, un natif d'Amérique, je sais pas quel est le terme qu'on utilise en
Amérindien,
France.
Amérindien, je crois.
Ouais, Amérindien, et qui en fait se découvre sa planète se fait attaquer. L'intro, elle est super what the fuck, tu vois, il est dans son bar en train de picoler, et d'un coup, il y a les aliens qui envahissent, tu vois, le désert.
Une bonne intro
et
de
il
jeu
se retrouve,
vidéo,
voilà, une bonne intro de jeu vidéo un peu naze, et il se retrouve à avoir des pouvoirs en fait d'aliens qui se déclenchent, et il peut. Et le principe du jeu, c'est, je sais pas si vous vous souvenez, c'est qu'on avait des espèces de bottes de gravité, on pouvait marcher sur les murs et au plafond, il y avait des chemin comme ça qui permettait de changer le point de vue du personnage, et son arme principale évidemment c'était un arc, parce que c'était l'époque des arcs, hein. Vous vous souvenez, il y avait Crysis, il y avait Tomb Raider,
ça dure encore,
ça dure encore l'époque des arcs. Non mais c'était peut-être le début justement de la période des arcs, hein. Tu vois, il y avait l'ère, je sais plus quoi,
est-ce
au Japon, il y a l'ère des arcs aux jeux vidéo, c'était pas terrible.
Très bien.
Il y a un Prey 2 qui était prévu, ouais, qui était prévu, qui avait qui été était récupéré annulé. Ensuite par Bethesda et ZeniMax, et je crois que Arkane à la base devait récupérer en fait ce projet qui était en développement, et ils ont reboot au final. Ils ont fait on va reboot, en fait on va garder le nom Prey,
ouais.
Puisque on cite Colantonio et Ricardo Aubert aussi qui est lead designer sur Prey. Ils disaient c'est un très bon nom quand même, mine de rien, en termes marketing.
C'est un très bon nom.
Ça fait que 4 lettres.
Ouais, c'est facile à retenir.
C'est trop, mais tu vois, effectivement, d'un point de vue com, d'un point de vue marketing, d'un point de vue SEO sur Google, t'as un truc qui s'appelle Prey. Normalement, tu vas soit tomber sur des photos de chasse, pêche et tradition, soit sur le jeu. Donc normalement, c'est vrai que ça fonctionnait bien. Maintenant, dans les faits, avec le recul, quand on voit aujourd'hui qu'il y a des jeux qui s'appellent What Remains of Edith Finch et que ça marche très bien, ouais. On se dit que finalement, ils auraient peut-être pu appeler What Remains of Talos One ou j'en sais rien, et ça aurait fonctionné tout autant. Donc c'est déjà une première décision qui montre qu'il y a eu peut-être des petits soucis durant le développement, parce que se retrouver avec une licence qui n'est pas la sienne, on l'a vu récemment avec l'article de Jason Schreier qui nous parlait du développement compliqué de Anthem, qui n'avait pas du tout ce nom-là au départ, il s'appelait Beyond, et ils ont choisi en plan B à la dernière seconde avant l'annonce à l'E3, 3 jours avant, de s'appeler Anthem. Ils avaient été obligés de refaire tout, et évidemment leur nom, ça leur parlait pas. Donc c'est vrai que le nom du jeu vidéo, déjà de base, ça permet de déjà d'installer un petit peu une ambiance, quoi.
Donc Raphaël Colantonio, en fait c'est assez intéressant ce gars, parce qu'il se revendique beaucoup en fait de cette espèce d'école. Alors c'est les personnes en fait qui ont un peu façonné ce qu'on appelle aujourd'hui l'immersive sim, on y reviendra évidemment en parlant un peu plus du gameplay du jeu, mais en fait il se rattache à cette espèce d'école de game design qui a été on va dire entamé par Richard Garriott avec Ultima Underworld. Raphaël Colantonio, il le cite comme vraiment étant le jeu vidéo qui lui a donné envie de faire des jeux vidéo, qui lui a fait se rendre compte des possibilités de ce médium. Et puis c'est une école qui a continué avec Doug Church et Warren Spector sur System Shock. Ensuite il y a eu Warren Spector sur
Deus Ex
qui bossait avec Harvey Smith. Et puis Arkane finalement a repris un petit peu cette espèce de flambeau, cette façon de faire ces jeux vidéo, cette typologie de jeux vidéo là. Et Prey en est sa dernière tentative, puisque depuis il a quitté le studio, il a quitté le monde du triple A, quoi.
Ouais, quand tu penses, Colantonio, c'est le mec qui est entré dans l'industrie du jeu vidéo parce qu'il a répondu à un quiz sur la série de jeux Ultima. Donc on voit quand même qu'effectivement il est toujours lié à cette série. Et Ars Fatalis, ça devait à la base être un, il devait reprendre, il me semble,
il voulait reprendre le nom Ultima.
Richard Garriott était positif pour ça, mais c'est EA qui possède la licence, si je dis pas de bêtises, et il y avait pas de feu vert de leur côté, et du coup il a fait juste un fils spirituel, entre guillemets.
Et c'est vraiment, enfin, quand tu l'écoutes en interview, t'as vraiment l'impression que c'est le travail d'une vie, tu vois, de faire ces jeux-là. Il est vraiment passionné par ces jeux. Et après, bah voilà, c'est vraiment l'expression de cette passion. Et donc, il a au lead design avec Ricard Aubert, qui lui avait bossé, je crois, sur Deus Ex, Invisible War.
Alors, le problème, je sais plus, mais Invisible War, voilà. Ouais, je crois qu'il était lead designer
chez,
dessus.
Il était chez Iron Storm sur Invisible War.
Donc, c'est vraiment tout un espèce de petit clan, plein de personnes, en fait, qui ont vraiment toutes quasiment bossé ensemble dans différents studios et qui se sont un petit peu influencés, ils ont hérité des trucs et voilà, c'est cette espèce de genre de l'immersive sim dont on va parler un petit peu après. Par contre, au niveau de la réception critique, ça a été pas mal, mais ça n'a pas non plus été l'explosion. On n'est pas sur des 90 sur Metacritic ou des trucs comme ça, je crois que c'est 82, il me semble. Ouais. Et puis, même commercialement, ça a été assez compliqué. Alors, on peut éventuellement parler de ce truc-là, de l'avoir marketé avec ce nom prêt qui finalement, est-ce que ça parlait à tant de monde, cette licence-là? Pas
non,
comme
finalement,
ça
parlait. En plus, c'était. Je pense que ça les a même, ça leur a même desservi plutôt. C'est ça que je voulais dire, parce que ceux qui connaissaient se souvenaient que c'était un jeu qui était incroyable. Ceux qui connaissaient pas, on n'avait rien à cirer parce que c'était pas un nom qui parlait à quoi que ce soit. Et du coup, c'est surtout que dans la manière de communiquer dans les différents trailers, ils ont eu du mal en fait à identifier ce qu'ils voulaient mettre en avant par rapport à leur gameplay. Et donc ils ont dès les premiers trailers, on voit qu'ils ont le cul entre deux chaises entre est-ce qu'on est un jeu d'action à la BioShock ou à Half-Life, ou est-ce qu'on veut être un immersive sim pur et dur à la Deus Ex, et on sent qu'ils étaient un peu tiraillés par ça, et donc c'est vrai qu'au niveau de la com, ben, tout n'était pas très clair, il n'y a pas eu non plus des milliards de trailers, on n'a pas été inondé de trailers de ce côté-là, Bethesda n'a pas fait un taf incroyable, et du coup, ben, forcément, quand le jeu est sorti, ça a fait un espèce de petit plop, quoi. Alors après, il a un succès d'estime sur le retour, parce que moi, en plus, je l'ai vu que j'ai fait le jeu récemment, les gens, ils étaient méga chauds à l'instant où j'ai dit que j'allais jouer au jeu, il y avait des fanas qui sont arrivés sur le chat instantanément, donc il a, je pense, eu un succès d'estime sur la durée, mais c'est vrai que d'un point de vue commercial, les débuts ont été assez difficiles. Après, bon, il y a eu des DLC, il y a eu des baisses de prix, donc j'imagine que sur la durée, ça a dû fonctionner, mais au lancement, c'était pas top.
On en reparlera peut-être en détail plus tard, mais c'est vrai que quand Dishonored 2, qui est sorti genre 6 mois avant près, quelque chose comme ça. Et près ensuite qui est sorti, ils ont tous les deux eu un petit peu le même sort, où à peine 2 semaines après la sortie, tu les trouvais, je sais pas, 30 balles, à Micromania, tu vois.
Oui, ils savaient vraiment pas sur quel pied danser. D'ailleurs, je me suis amusé à re-regarder les trailers de lancement. Le vrai trailer de lancement, j'avais l'impression qu'on me vendait Doom. Tu vois, c'était vraiment genre l'action, c'était tu sais, tu jouais les monstres et tout. Enfin, tu vois, ça aurait pu être un trailer pour Doom. D'accord. Alors que ça n'a rien à voir avec ce qu'est le jeu. Et au début, c'était vendu comme une espèce de truc un peu survie, histoire un peu sombre et tout. Donc voilà, ils savaient vraiment pas sur quel pied danser.
Et puis, quand il y avait des interviews de Colantonio à l'époque, la première minute, c'était toujours dire alors c'est pas vraiment prêt. Enfin, ouais, déjà, pitch, c'est de commencer par dire alors ça s'appelle prêt, mais c'est pas une suite.
Dès le début, c'est compliqué. C'est pour ça que des fois, tu vois, on se moque un peu du marketing, mais réussir à simplement identifier quel est ton jeu et à réussir à le présenter avec ce qu'on appelle l'elevator pitch en quelques instants, c'est vraiment essentiel, parce que si t'es pas capable de dire c'est quoi ton jeu en moins d'une minute, c'est-à-dire le temps d'un trajet dans un ascenseur, c'est ça l'image qu'on utilise, déjà de base, ça va être très compliqué d'expliquer au grand public ce que c'est. Donc c'est vrai que c'est toujours là, quand on voit que ça commence mal dès ce niveau-là, malheureusement, on sait qu'à l'arrivée, il risque d'y avoir des soucis au niveau des ventes, forcément.
Alors, comme d'habitude, on va essayer de rentrer dans le jeu par son histoire. Y a personne qui a voulu se désigner pour faire l'histoire de Fred. D'habitude, on se dit, ok, c'est toi qui la feras. Là,
pourtant, moi, j'avais écrit Hugo partout. Avec Max, on est d'accord. Hein, Max.
Donc, l'histoire de Fred, en fait, ça se passe dans une dystopie. C'est ça, donc en fait Kennedy n'a pas été assassiné, et finalement la course à l'espace, que ça s'appelle la Space Race, alors je sais pas, on dit course.
Si, c'est la...
qui s'est vraiment lancé à Donf. Il y a vraiment, ils ont envoyé des vaisseaux dans l'espace, et ils ont découvert en fait une espèce de race extraterrestre qui a été pendant un moment contenue, et puis dans les années 80-90, bim, il y a eu un gros caca, ça s'est mal passé, et finalement c'est une espèce de boîte qui s'appelle Transtar qui a repris les recherches sur cette espèce de race extraterrestre qu'ils ont découvert dans l'espace, et ça a donné en fait Talos One, cette espèce de grande station orbitale qui est à la fois donc une station de recherche, mais aussi les headquarters, enfin le QG de la boîte Transstar.
Qui faisait donc des recherches sur cet extraterrestre qui a été caché au public et qui s'appelle la race des Typhoons.
Ouais.
Et eux, en fait, ils se sont rendus compte que tu pouvais, alors j'ai plus les détails exactement, mais en tirer quelque chose, tu vas faire des expériences sur eux et des humains pour en tirer, pour pouvoir créer ce qui s'appelait des neuromodes. Ouais. Et quand tu te mets donc des neuromodes et un petit peu de Typhoon en toi, tu peux développer des capacités. Alors ça peut être soit des trucs simples, entre guillemets, comme jouer du piano hyper bien, ou être doué à quelque chose qui existe, ou avoir carrément des pouvoirs pour le coup. Et donc il y a eu toute cette, bah, cette révolution en fait qui est arrivée sur la Terre grâce entre guillemets aux travaux de Transtar.
Je crois qu'en fait c'est avec les mimiques, ils arrivent en fait à piquer, par exemple tu prends quelqu'un qui est hyper talentueux, tu lui greffes le truc, tu lui prends le truc, tu lui prends sa capacité, et en fait tu peux la copier sur les autres en fait à partir de cette personne. Donc tu peux piquer, tu vois par exemple bah, un mec qui joue super bien du piano, hop tu le plantes, hop tu prends et tu mimiques sur l'autre quoi. Donc c'est ça, et effectivement bah, ils ont développé cette technologie qui évidemment est vendue à prix d'or à des personnes très 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 fortunées, et voilà ça, ça crée donc ces fameux neuromods. Et le jeu en fait nous place dans la peau de Morgan Agnew, qui est donc soit un homme, soit une femme.
T'as une petite séquence au début où ils se regardent voilà, l'œil, tu vois, ils ont les veines complètement injectées de sang à cause justement de l'utilisation des neuromodes, parce que du coup, il faut expliquer que c'est une espèce de petit pic
qui t'enfonce dans l'œil. Tu sais,
dans la glande lacrymale.
T'as une espèce donc, de bonne aiguille de 5 ouais, ouais. 10 cm.
Tu sais, il a un petit bouton, il appuie dessus, ça fait genre ça sort super vite, et toi, t'es là, je vais me mettre ça dans les yeux. Non, jamais.
Sortir de l'autre côté.
Ah ouais, ouais, ça a l'air d'être.
Ouais, il y a un côté un peu lobotomie avec la grande aiguille, effectivement, qui te plante, quoi.
Et du coup, bah, Morgan Agnew, en fait, il se réveille le matin et il sait juste qu'il doit participer à quelques tests. Donc, ça permet de cacher le prologue du jeu, déplace-toi, cache-toi, utilise les boutons, etc. Utilise ton environnement. Et en fait, à la fin, ça se passe mal. Il y a une attaque, en fait, d'un mimique sur un des scientifiques. Et toi, tu te réveilles le lendemain comme si de rien n'était, avec, en mode, un jour sans fin, tu vois, c'est la même musique, le même générique et tout. Et évidemment, quand tu sors, bah, tu te rends compte que la nana de l'entretien de la veille, elle est morte. Et que, a priori, toute la station est complètement dévasté. Et évidemment la grosse révélation, c'est un moment où tu essayes de t'enfuir parce que t'es contacté par une voix qui te dit de te barrer, et là tu brises ce qui était avant ta baie vitrée qui te donnait sur la ville gigantesque du début, et là boum, Truman Show effect,
tu te rends compte que c'était
un gros décor de sitcom, tu étais le Truman Show à toi tout seul. Et du coup, forcément à partir de là le jeu commence à installer en place une espèce de paranoïa sur qu'est-ce qui se passe, et le but du jeu déjà dans un premier temps c'est de comprendre ce qui se passe, qui tu es, d'où tu viens, etc. Et en fait petit à petit on va découvrir qu'il y a Morgan dans le passé, puisque forcément comme il faisait des tests sur lui, il perdait la mémoire.
C'est ça, on apprend en fait qu'il se faisait des tests sur lui-même, et on apprend qu'en fait la technologie des neuromodes, quand tu te l'injectes, bah c'est bon, tu gagnes ta capacité, mais si tu veux t'enlever cette capacité, bah ton cerveau fait une espèce de reboot au moment où avant en fait tu t'étais injecté le truc.
C'est les copies de sauvegarde de Windows qui fonctionneraient, tu vois. C'est... ça permet de revenir à un état antérieur, mais forcément bah si tu gardes des neuromodes pendant 10 ans et que tu les enlèves, bah voilà,
ça en fait 10 tous les jours, il lui faisait des tests sur la tronche. Il lui mettait, il lui enlevait, et en fait, bah, au final, du coup, il revivait chaque jour la même journée, il faisait des tests comme ça, et donc tu brises cette espèce de routine, de simulation, et tu vas donc devoir comprendre bah, pourquoi vous avez mis ça en place, et surtout qu'est-ce qui s'est passé, et comment trouver une solution, puisque bah, toute la station est aux mains des typhoons, il reste que quelques survivants, et tu vas devoir essayer de trouver une solution, et ton toi du passé va te donner une solution qui est de bah, détruire la station, parce que vraiment, vos recherches n'étaient pas un bon délire, en fait, donc vaut mieux te détruire. Et ton frère qui est lui vraiment le CEO alors de Transtar, de Talos One,
c'est le nom de la station
ouais. Et donc c'est le boss, et lui par contre qui bah, a envie de garder ses recherches, et il va essayer de te mener à trouver une solution pour simplement se débarrasser de la menace Typhoon, puisque voilà, il y a une espèce de à la fin du jeu, il y a une espèce de gros Typhoon qui va carrément recouvrir toute la station, et on aura le choix d'ailleurs à la fin, est-ce qu'on détruit la station ou est-ce qu'on sauve la station et on détruit simplement le Typhoon.
Et la twist,
et la grande révélation de
qu'est-ce qui se passe en fait? Mais que dites-vous?
En fait, c'était un rêve.
En fait, bah, c'était une simulation, encore une fois, puisque là, une fois qu'on choisit bah, soit de détruire la station, soit de la sauver, eh bien, on se réveille dans la peau d'un typhoon cette fois-ci, avec devant nous donc Alex, le CEO, quelques robots qui représentent finalement les grands chercheurs de la station et qu'on a pu croiser pendant l'aventure. Et Alex nous explique bah, que en fait, nous, on est un typhoon et qu'ils ont essayé de nous mettre des trucs humains dans la tête pour voir si ils peuvent créer une espèce d'être suprême, en tout cas mélange vraiment un hybride entre typhoon et humain, parce que en fait ce qui s'est passé dans la réalité c'est que les typhoons ont déjà pété la station et qu'ils ont carrément envahi toute la Terre, et du coup leur idée c'est d'espèce de créer une espèce d'émissaire en fait qui serait mi-humain mi-typhoon.
Ils lui font vivre du coup cette simulation pour voir en fait comment est-ce qu'il réagit, est-ce qu'il est capable d'empathie, est-ce qu'il aurait sauvé des gens pour, comme tu disais, en faire un émissaire, en fait, une espèce de pont entre les typhoons et les humains.
Exactement. Et donc, tu as même encore un choix à la fin, puisque tu peux choisir bah, de soit serrer la main à Alex et de devenir cet émissaire, ou de mettre un grand coup de chlasse organique dans la tronche de tout le monde et d'être un berserk typhoon, quoi.
Voilà, donc c'est vrai que c'était un peu surprenant ce twist sur du twist sur du twist, mais de toute façon toute la construction du jeu est là-dessus, sur le côté, il y a beaucoup de jeux avec les miroirs, il y a beaucoup de jeux avec les révélations, avec les mensonges, ils installent comme je disais une espèce de paranoïa parce qu'on ne sait pas qui est allié, qui n'est pas allié, et donc tout au long du jeu en fait on se demande en permanence
à qui faire confiance,
ouais, à qui faire confiance et qui tire les ficelles, et quand enfin on pense avoir réussi à trouver quelque chose, on se rend compte que finalement bah, tout n'était qu'une simulation encore une fois, donc c'est... voilà. C'est un peu Inception dans le principe, mais ça fonctionne plutôt bien dans la narration. Alors, il y a quelques petites longueurs, on y reviendra. Mm-hmm. Mais voilà, pour le gros de l'histoire, ça, c'est Prey 2017.
Ouais, et puis bon, ça fonctionne pas si mal. Moi, ça m'avait plu parce que effectivement, bah, c'est une simulation. Et Prey, donc, c'est une immersive simulation. C'est ça le genre du jeu.
Et quelle transition pouvoir... incroyable.
Merci.
Alors là,
merci à vous. Merci à vous.
Mais dis-moi, qu'est-ce que c'est qu'une immersive simulation ?
C'est pas moi qui fais. Non, effectivement. Donc, on va pouvoir rentrer maintenant un peu plus dans le détail du gameplay. Qu'est-ce que l'immersive sim ? Donc, c'est ce fameux, cette fameuse typologie de jeu dont je parlais, qui a commencé en fait avec Ultima, qui s'est beaucoup plus définie,
je crois,
avec
Underworld.
Ultima Underworld,
excusez-moi.
Excuse-nous, papa Exerve. Il y a eu System Shock, et puis il y a eu Deus Ex, qui est probablement un peu la pierre angulaire de ce genre-là, qui est le classique vraiment du truc. Et alors, qu'est-ce que c'est que l'immersive sim ? Alors, je peux me lancer si vous voulez.
Non, mais Max, il avait une bonne.
Ah bon ?
Ouais. Bon, donc, comme le disait Maxime, c'est que.
On sait, en fait, en discutant, on se rend compte que c'est pas vraiment un genre, c'est pas un thème, c'est plutôt une philosophie de game design. En fait, c'est une façon d'envisager la création de jeu qui se repose sur deux piliers, en fait, deux pierres angulaires. C'est d'abord un monde cohérent, ça c'est le monde simulé, donc un espace de jeu qui a ses règles, et ces règles qui vont rester constantes pendant toute la durée du jeu. Et puis la deuxième phase, c'est donc ce gameplay ouvert avec ce qu'on appelle beaucoup de player's agency. Alors en fait, on n'a pas forcément de manière de traduire ça en français. Alors les Québécois disent agentivité, voilà, mais c'est vrai que c'est pas quelque chose qu'on utilise beaucoup. En fait, l'agency, c'est la potentialité, on va dire, du joueur à avoir un impact sur son monde. Et ça peut être tout bête, hein. C'est simplement, par exemple, bah, vous prenez un livre, vous pouvez le déplacer, si vous mettez une lampe quelque part, bah, elle va éclairer un autre endroit. C'est cette capacité, en fait, qu'on a dans certains jeux à influer sur notre monde et sur notre environnement. Et si vous réfléchissez, bah, c'est pas le cas dans tous les jeux. Je vais vous donner un contre-exemple. On prend par exemple Uncharted. C'est un jeu où il y a très peu de player's agency, parce qu'effectivement on a très peu d'impact sur notre environnement.
Ouais, tu peux vider un videur de M4 dans un rocher, voilà. Le rocher il ira très bien. Alors
ça,
que
ouais.
Normalement, dans un monde simulé, en fonction de la quantité de systèmes et de simulations qu'on va mettre en place, normalement, quand tu vas tirer sur quelque chose, ça va provoquer une réaction. Et ces réactions peuvent se provoquer en chaîne, puisque du coup, des fois, les règles s'additionnent. Mm-hmm. Et l'exemple le plus récent, c'est de parler de Zelda. Vous prenez votre torche, vous vous mettez à côté d'un arbre, au bout d'un moment, l'arbre il va se mettre à brûler. Donc, ça c'est tout bête, mais c'est ce qu'on appelle une simulation. Et du coup, bah, c'est un peu la base de cette idée d'immersive sim.
C'est vraiment un sentiment en fait qu'ils essayent de créer, vraiment le fait de, Warren Spector disait, c'est vraiment, enfin, créer un endroit où t'as l'impression d'exister. Mm-hmm. Et comme disait Hugo, ça se fait avec la cohérence, que ce soit de nos actions ou du monde autour de nous. Et vraiment une des philosophies de l'immersive sim, c'est de te poser en fait face à des problèmes qui n'ont pas forcément une solution claire et nette, mm-hmm. mais c'est de te proposer toute une palette d'outils qui fait que toi, tu vas trouver ta solution, en fait, que tu trouves satisfaisante. Que ce soit un jeu comme Thief, où là, on incarne un voleur, où tu peux t'infiltrer, tu peux tuer les gardes, où tu peux t'infiltrer. Tu as, alors je sais plus, ça va être Exerf qui va pouvoir confirmer, mais t'as différents outils à portée de main. Tu vas avoir des flèches qui ont des cordes et
t'as plein de trucs qui fonctionnent entre eux. Donc tu vas pouvoir éteindre les lumières, tu vas devoir marcher sur différentes surfaces, tu vas devoir faire attention au bruit que tu vas provoquer.
T'as des flèches. Alors du coup, la cohérence, c'est aussi un peu de la suspension d'incrédulité. Est-ce que tu as, parce que tu as dans Thief des flèches avec de la mousse. Oui, déjà, t'as des flèches d'eau pour éteindre. Et t'as des flèches où quand tu les tires au sol, ça met de la mousse d'arbre par terre, et du coup
tu
peux marcher,
sauter et faire moins de bruit.
C'est un petit peu de magie.
Non, mais en fait l'idée, c'est pas que ça soit réaliste, c'est quelque chose d'important, c'est une nuance qui est importante. C'est pas forcément réaliste dans le sens vraiment tu vois, physiquement réaliste avec les règles, c'est pas comme dans la réalité, mais par contre il faut que ça soit cohérent avec cet univers
vraisemblable.
Voilà. Donc il faut que les règles fonctionnent entre elles, il faut que, ça c'est important, ce que tu disais, c'est qu'elles continuent de fonctionner même quand toi tu t'y intéresses pas. C'est-à-dire que typiquement, on va prendre Minecraft en termes de simulation. Quand tu verses ton pot de flotte et que tu reviens 4 heures plus tard, normalement ça a inondé la moitié de la forêt, parce que la gestion de l'eau était catastrophique dans Minecraft. Mais c'est pour dire que, en gros, les choses se passent même quand tu les regardes pas, même quand tu n'es pas devant en train d'agir dessus.
Et donc dans Prey, bah, ça se traduit par plein de choses. Donc déjà, tous ces éléments de décor qu'on peut déplacer, il y a des caisses, il y a des boîtes, des machins. Des caisses, bah, vous pouvez les prendre, vous pouvez les empiler et vous pouvez vous faire bah, un espèce d'escalier. Il y a ce fameux glue gun qui était un petit peu l'arme signature, on va dire, du jeu, qui est cette espèce de pistolet à colle et qui fait des espèces de maxi-boules de
polystyrène néoprène. Là,
exactement. Ouais. Et qui, bah, en fait, bah, si vous pouvez vous faire, vous pouvez vous dessiner un escalier contre un mur. Il y a d'ailleurs un moment dans le jeu où vraiment on vous introduit à cette possibilité-là, en fait, via une espèce de, pas de cinématique, parce qu'il n'y a jamais vraiment de cinématique dans les immersive sims, on est toujours un peu libre de nos mouvements, il y a des choses qui se font, il y a une théâtralisation des choses, mais par contre il y a pas de, on nous reprend que très 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 rarement le contrôle. J'arrive pas, je dis très rarement pour être prudent, parce que j'arrive pas à trouver d'exemple où on pourrait le faire. Est-ce que dans Prey on nous prend le...
Quelques dialogues où t'es obligé de les suivre quand tu vas croiser
Alex
loqué. Souvent
c'est très rare que t'es loqué,
tu peux pas sortir ton flingue et lui tirer dessus d'un coup, tu vois. On n'est pas à ce point-là de liberté.
Alors ça dépend des moments, parce que je me souviens avoir vu des scènes où tu peux tirer sur Alex et le buter.
Il y en a certaines où tu peux, mais pas toutes. Il y en a une ou deux où je crois où c'est vraiment des espèces de petits goulots au niveau de la narration, mais c'est vrai que c'est extrêmement rare. La plupart du temps, en fait, quelqu'un va te parler dans ton talkie-walkie et tu vas pouvoir continuer de jouer pendant ce temps.
Si tu vois, là, tu peux t'emballer que total et faire ton truc à côté. Exactement. C'est ça qu'on aime d'ailleurs. Et donc il y a ça, il y a tous ces systèmes, et puis bah là après il y a tout ce que le jeu va nous donner, donc tous ces fameux outils en fait qui vont nous permettre d'interagir avec l'environnement. Donc ça va passer par des pouvoirs. Il y a ce fameux pouvoir aussi qui était vraiment le pouvoir signature là cette fois-ci de Prey, c'était de se transformer, de prendre en objet, donc soit des tasses, des pots de bananes, des lampes, tout ce que vous voulez.
Et encore une fois, un objet de l'environnement. Hein, c'est
exactement,
vraiment,
tout à fait, c'est ça. Bah d'ailleurs, je pense qu'on peut même en parler. Tu vois, tu peux même par exemple dans ton inventaire déposer un truc. Toi, tu l'avais fait, Maxime. Pour
ça, c'était mon petit moment. C'est aussi un sentiment qui essaie de créer. Comme je disais, c'était le fait que le joueur trouve sa solution, pas forcément le jeu qui disait là utilise ton glue gun et là tu vas à quel truc. Et à un moment, moi, il y avait des caisses qui m'empêchaient l'accès à un passage, mais il y avait une petite faille. Et j'avais pas d'objet dans le coin. D'habitude, je trouvais une tasse ou un petit truc pour en prendre possession et me faufiler. Et je trouvais pas. Et en fait, je me suis dit un truc tout con. En fait, j'ai mon inventaire et dans Prey, on peut donc poser ces objets et ils restent à terre. D'ailleurs, je crois qu'ils restent tout le temps à terre.
Ouais,
le truc
vraiment,
que tu laisses,
logiquement, si tu poses un truc à la fin du jeu, si tu reviens, il y sera toujours.
Et du coup, j'ai balancé une peau de banane de mon inventaire. J'ai pris possession de la peau de banane et je me suis infiltré. Et ça, c'est des petits moments. En fait, c'est tout bête quand on le dit, mais le fait d'y penser, c'est un petit déclic qui se fait dans la tête et qui est hyper agréable.
Et ça, c'est vraiment ces sentiments-là dans ce genre de jeu qui, en général, marquent les gens et qui ont marqué, du coup, à leur époque, les gens qui avaient découvert Ultima Underworld. Et c'est pour ça qu'ils ont voulu, dans la foulée, faire des immersive sims, c'est un genre, finalement, enfin, en tout cas, une philosophie de design qui n'est pas représentée dans tant de jeux que ça. Parce que même dans les épisodes les plus récents de Deus Ex, ça reste quand même un peu plus limité. On ne va pas au bout de l'idée de la simulation. Il n'y a pas non plus des systèmes. Alors, c'est vrai qu'on peut jouer avec les caisses, on peut jouer avec des ballons, on peut faire des trucs comme ça, mais l'intégralité du monde ne fonctionne pas comme une simulation, parce que de toute façon, plus on va vouloir aller loin dans cette philosophie, plus l'objectif à atteindre va s'éloigner, en fait. Donc ça, c'est plus un idéal à atteindre, tu vois, l'immersive sim dans ma tête, qu'un truc qu'on peut réussir à faire, parce qu'il y aura toujours un moment où tu vas te dire, ah oui, mais alors, si je fais comme ça, il faudrait que les choses elles fonctionnent comme ci, comme ça, et ça devient de plus en plus complexe.
On peut prendre l'exemple de la grenade. Il y a une espèce de grenade, en fait, qui absorbe du vide, donc qui fait une espèce de sphère de vide, et c'est une espèce de grenade recyclante, parce que dans Prey, on peut recycler les objets, et cette grenade, si vous la lancer, je sais pas, on peut faire une espèce de tas de chaises, de lampes et trucs, tu balances ta grenade au milieu et hop, ça va se transformer en petits matériaux et en fait la grenade va tout absorber et bim, t'as les matériaux. Mais la grenade, par exemple, n'absorbe pas le sol, tu vas pas pouvoir détruire la station à coups de grenades qui font du vide. Donc il y a toujours une limitation, en fait, dans ces règles. C'est des jeux, il y a toujours des règles qui les régissent, même si là ils essaient de jouer avec et de justement créer des situations grâce à ces règles et à leurs interactions, il y a toujours une limite de toute façon.
Voilà, dans les autres exemples qui étaient rigolos, c'est quand, là c'était le chat qui m'avait indiqué ça, mais en gros, il y a un moment, tu chopes une arbalète nerf là, avec des petites flèches en mousse, et en gros, tu te rendais compte que tu pouvais l'utiliser pour appuyer sur des boutons à distance à travers des fenêtres et tout ça, et sans ça, t'avais pas d'autres solutions avant d'avoir des pouvoirs plus tard. Mais en gros, voilà, tu te dis, avec un objet qui paraît complètement anodin, tu peux quand même avoir un impact, et c'est vrai que ça, c'est vachement gratifiant, et c'est vachement agréable en tant que joueur de se dire, oh, j'ai réussi à faire ça, quoi.
Encore une fois, le moteur physique, c'est aussi vraiment un outil pour renforcer cette cohérence. C'est-à-dire que l'objet que tu jettes, il peut enfoncer un bouton du jeu. Il n'y a vraiment pas beaucoup de jeux qui te proposent de faire ce genre de choses.
Ce qu'on n'a pas dit également, c'est que historiquement, l'immersive sim, c'est des jeux FPS. globalement, et qui ont une composante RPG, et c'est très présent dans Prey, puisqu'il y a quand même une grosse partie action, et puis l'arbre, le fameux arbre de compétences, ne se résume pas seulement à quelques pouvoirs qui vont vraiment changer justement votre façon d'apprendre le monde, il y a beaucoup de statistiques, de plus de santé, débloquer...
De force, voilà, plus de discrétion, etc., etc. Bon, c'est les arbres classiques, hein, de toute façon, à ce niveau-là, dans tout ce qui est action RPG. Ce qui est étrange, c'est qu'ils aient choisi de faire vraiment plein de paliers différents, donc c'est un peu frustrant, tu vois. Tu vas avoir les caisses, c'est force 1 pour les avoir, t'as les caisses, c'est force 2, t'as les caisses, c'est force 3, donc c'est un peu frustrant parce qu'au final, en plus, après, t'arrives avec ta grenade et tu les détruis, donc du coup, il y a déjà des petites limitations qu'on voit naître dans l'arbre de progression, où des fois, tu te dis, est-ce qu'il aurait pas fallu tout simplement augmenter la force, peut-être de manière brutale d'un seul coup, et tu peux jouer avec le décor directement.
Bah d'ailleurs, je crois qu'on peut le dire, hein, maintenant que le jeu est sorti depuis un moment, si vous augmentez votre force à fond, vous pouvez prendre des tables et les balancer sur les typhoons et ça les défonce vraiment, c'est hyper fort. J'avais vu des vidéos, c'est n'importe quoi.
C'est
la
vrai?
Puissance. Ah, même c'est vraiment, ça les éclate. Vraiment, ton pompe à côté d'une table dans la tronche, etc. Je peux t'assurer que c'est vraiment.
Ouais, mais parce que justement, ils commencent à avoir, au bout d'un moment, les valeurs de force elles deviennent complètement aberrantes, donc ça devient n'importe quoi.
Les balles, il les verse dans sa main et il les jette, tu vois.
Parce qu'il est beaucoup trop fort.
Il prend les boîtes de cartouches et bim dans la tête comme ça directement. Non, mais ce qui est amusant, mais ça confronte cette idée qu'en fait, il y a une grosse partie action, il y a une grosse partie
expérimentation.
Tu te dis, bah, c'est vrai que finalement, le jeu s'est dit, on va quand même mettre toutes ces armes-là, plutôt que de vous laisser simplement dire, bah voilà, si tu utilises ta force, tu pourras faire mal au truc. Ils ont vraiment quand même intégré une grosse partie action, et si tu veux, tout cet aspect immersive sim, tu peux un petit peu passer à côté finalement, puisque tu peux jouer de manière assez classique tout au long du jeu, quoi. Parce qu'avec le glue gun et le peupon, la plupart des ennemis, en tout cas quand c'est des typhoons, c'est à peu près jouable. Mmh. En plus, bon, on peut en parler un petit peu. Voilà, l'ennemi design n'est pas forcément hyper poussé. Il y a les mimiques qui sont vraiment une bestiole super intéressante.
Donc ouais, c'est vraiment l'idée de design du jeu, quoi. C'est les petites machins à quatre pattes là qu'on voit dans le logo. Et en fait, elles peuvent se transformer en objets. Mmh. Et donc, très rapidement, on devient parano, quoi. La première heure de jeu,
début,
tu sais plus
si
la tasse, tu vas lui tirer dessus, ça va peut-être se transformer en monstre. Ou alors tu vas te rapprocher d'un cadavre et en fait, l'écran des ordinateurs sur lequel il est posé, c'était un mimique. Mmh. C'est vraiment extrêmement bien fait. C'est très saisissant et ces premières heures de jeu, de toute façon, elles sont incroyables après. Mmh. Je pense que sur la suite, ça se casse un petit peu la tronche, j'ai trouvé. Mais le début, avec l'idée de design qu'un ennemi devient un objet du décor, c'est vraiment une super idée. C'est brillant.
Et ça renforce vraiment ce côté, cette touche des détails en fait, parce que tu vas te rendre compte, on en reviendra en détail plus tard, mais à quel point ton environnement il est cohérent, encore une fois, parce que le fait de voir deux tasses sur un tabouret, ben là tu dis. Ah,
c'est pas normal,
c'est bizarre, tu vois.
Et en fait, c'est le tabouret de mimique et hop, t'es niqué. Mais elles sont pas très dangereuses par contre, tu vois.
Non,
c'est pas des bestioles, c'est pas des facehuggers qui vont te tuer en deux secondes.
C'est ça, même si elles peuvent être un peu déstabilisantes, je sais pas. Alors moi j'ai joué sur PC, je crois que vous aussi. Je sais pas si à la manette c'est assez agréable parce que tu sais, faut les chasser un petit peu dans tous les sens. Et c'est vrai que c'est peut-être plus facile à viser à la souris qu'à la manette.
Ouais, c'est une question d'habitude, je pense.
Ouais, mais très souvent elles s'enfuient de toute façon. Ouais. Tu sais à peu près quel objet ça va être parce qu'ils bougent un petit peu pendant quelques secondes. Donc si tu les courses, ça va.
Parce qu'évidemment, tu commences avec une clé à molette, hein, puisque bon, là c'est la tradition de jamais commencer avec le flingue mais avec une barre. Un truc pour taper
avant d'avoir enfin le flingue, et là il te file le glue gun, et après bon, ça devient n'importe quoi, il te file des armes de plus en plus costauds.
Et pour l'anecdote, les mimiques qui ont une marge en fait dans la taille des objets qu'elles dans lesquels elles peuvent se transformer donc en petite tasse, un tabouret. Mais elles vont pas se transformer en une armoire, tu vois, un truc énorme, parce que toujours il faut que ça reste un minimum, quoi. Si tu vois ce petit truc qui devient un truc énorme, ça devient
c'est
un
vrai
peu.
Que si tu rentres dans la salle, tu vois une grosse armoire, d'un coup il fait. Bon, tu vois, qu'est-ce qu'ils ont foutu ?
Je me demande où il est passé.
Et c'est rigolo parce que, alors, pour le coup, tu sais, c'est un pouvoir que t'avais dans Demon's Souls et Dark Souls. C'est un pouvoir que tu avais en multi où tu pouvais te transformer en objet du décor.
Pas t'en empêcher, hein.
Mais non, mais parce que c'est la même chose. Et du coup, c'était très drôle parce que ça créait des situations similaires où tu prenais les gens par surprise, etc. Et là, c'est le jeu qui est tout le temps en train de s'amuser avec toi. Enfin, tout le temps.
T'as des modes de jeu qui s'appellent les Prop Hunt. T'as ça dans Garry's Mod. T'avais ça aussi dans TF2. Donc, enfin, des jeux du moteur Source où c'est vraiment un jeu multi où en fait, t'as des joueurs qui sont transformés en objets, qui peuvent se déplacer. Et un joueur qui va devoir les chasser et les trouver dans un décor où il y a plein d'objets et il faut voir s'ils se déplacent, ou tu tires dans des objets, et juste pour la faire courte, en fait, si tu tires sur un objet inanimé, bah, tu perds quelques points de vie, et pour pas que tu puisses mitrailler, tu vois, toute la salle, et t'as vraiment ce petit jeu...
Eh bien, j'ai appris des choses, je ne connaissais pas du tout ça, donc c'est très bien. Et donc ensuite, l'ennemi design qui va pas forcément beaucoup évoluer, puisqu'il y a les Typhoons, ensuite il y a la version fantôme, donc c'est les humains qui ont été transformés en Typhoon, et là, c'est des mecs qui se baladent et qui vont vous envoyer des boules d'énergie. Ensuite, on a les espèces de télépathes, technopathes, qui sont des espèces de grosses boules de Typhoon qui flottent et qui, elles, vont vraiment c'est des tanks, quoi, entre guillemets, quoi. Et puis après, dans l'espace, puisqu'on peut aussi aller dans l'espace,
il y a les tisseurs,
mais c'est vrai qu'il n'y a pas énormément de diversité et le jeu a de plus en plus de mal à se renouveler au fur et à mesure des situations, surtout qu'il dure quand même bien une vingtaine d'heures pour aller jusqu'au bout. Et c'est vrai que toute la richesse que tu prends en pleine tronche au début avec le glue gun, le fusil à pompe, les mimiques qui sont vraiment un ennemi un peu spécifique ou qui te déstabilise. Au début, il y a un petit côté mais un peu survie horror. Tu vas ensuite essayer de battre les fantômes qui sont quand même assez forts au début, donc tu vas devoir faire preuve un petit peu d'ingéniosité pour les battre. Et puis au fur et à mesure, tu vas rentrer dans ta routine, tu vas te rendre compte que glue gun, hop, tu tires sur les fantômes, ensuite tu vas un peu pour dans la tête, ça marche globalement. Et pareil avec les technopathes, télépathes, tu vas pouvoir t'en débarrasser finalement assez facilement, surtout que tu as tous ces objets à ta disposition entre les pouvoirs et les grenades, les machins. Il y a beaucoup de choses en fait qui te permettent de solutionner les problèmes.
C'est ça, comme tu le disais, je pense que c'est important de le souligner, où tu peux vraiment atteindre une certaine zone de confort à un moment. Dans un jeu qui te propose autant d'outils et autant de solutions, ça veut dire que tout est plus ou moins viable. Ouais. Et du coup, on a un peu une proposition qui se mord la queue au final, où on va vouloir te proposer de faire plein de choses différentes. Et comme tu le disais, si t'as ton glue gun et ton pompe, t'as un peu la solution à tous les problèmes.
Mais là, le souci, c'est que le manque de diversité des ennemis, en fait, au bout d'un moment, ne te demande plus d'expérimenter, parce que effectivement, dès que t'as trouvé la solution qui fonctionne, toi tu vas pas chercher à aller plus loin, et eux en fait leur job aurait été justement de te mettre face à des situations qui te forcent à réfléchir, pas où tu dois te dire il faut que je fasse de telle manière, mais où tu te retrouves face à quelque chose qui te bloque et où tu te dis je vais essayer de réfléchir, je vais utiliser mon environnement et tout ce que j'ai appris jusque là. Mais comme il y a que très peu d'ennemis, on a globalement 4 ou 5 grand max,
en gros, si t'as des versions alternatives rouge et bleu,
et dans le même, ouais, c'est un peu ça, et dans le rythme et dans la progression du nombre qu'on va en croiser. Au début, quand tu croises ton premier Typhoon, ça fait un peu peur, parce que du coup il y a une musique spéciale et tu te dis le machin il est immense, il se déplace très vite, il peut même se dupliquer, donc c'est assez, assez étrange. Et puis au bout d'un moment, quand on a 4, 5, 6, 7 dans la même pièce ou dans le même couloir et que tu les enchaînes parce que tu as énormément amélioré ton fusil à pompe, finalement ça perd de son importance les rencontres, et je pense qu'ils ont peut-être voulu en mettre trop d'ennemis finalement. Et de toute façon, moi c'est un truc qu'on peut déjà en parler, je trouve que justement le jeu bascule trop rapidement dans le côté action pure et oublie justement, il laisse un peu de côté le côté immersive sim. Alors pourtant, dès qu'on commence à gratter un peu la surface, il y a un travail colossal sur la construction du monde, de la station et des personnages.
Même si on peut juste quand même terminer sur cette histoire d'action, parce qu'à la fin du jeu, il y a un passage où en fait on arrive finalement dans le bureau d'Alex, on croit qu'on va vraiment aller au bout du jeu, et en fait non, il y a une espèce de Gugus qui arrive en vaisseau et qui décide de nous harceler avec des robots, parce qu'il y a aussi des espèces de petits robots qui peuvent nous soigner, qui peuvent nous réparer et qui sont aussi des petits robots de défense. Et en fait lui, il va arriver et il va dire maintenant vous allez m'obéir, et en fait il t'envoie des espèces de robots mais qui vont respawner à l'infini. Et en fait le jeu change complètement de proposition, puisque non seulement avant en fait il t'apprenait tout le temps à explorer et à te dire si tu fumes tout le monde tu vas être tranquille, tu vas pouvoir prendre ton temps, parce que on en a pas parlé, mais il y a aussi plein de problèmes pour ouvrir des portes, pour ouvrir des coffres, il y a plein de petites, pas des énigmes, il y a plein de petits puzzles à résoudre pour essayer de trouver des codes et des trucs comme ça. Donc l'exploration a une part très importante dans la proposition, et ce sera même encore plus vrai quand on parlera de la narration. Mais tu te dis là en fait ils ont, pour moi, ça a été un moment de grande frustration, parce qu'il m'avait cassé mon jeu, c'est-à-dire vraiment que je l'aimais beaucoup, tu vois, j'étais vraiment dans, je prenais mon temps, je gérais bien mes ressources, et là, bim, il m'envoie un ennemi qui non seulement arrive en infini, mais en plus, qui est très spécifique, c'est-à-dire que tu ne peux le battre qu'avec des EMP. Donc t'as soit le pouvoir électrique que t'as débloqué sur un Typhoon, soit tu as des grenades EMP. Mais finalement t'as très peu de solutions, et en plus ils font très 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 mal. Et c'est vrai que du coup t'as un espèce de chamboulement comme ça dans la boucle, et qui pourrait être bénéfique, parce que justement tu vois, t'en parlais, tu pourrais te dire il faut changer un petit peu le rythme, mais ça marche pas du tout, parce qu'en fait ça casse toutes les grandes
boucles. Parce qu'il te limite les solutions. Au lieu de t'en donner plus et de te forcer à y réfléchir, il te limite ça à une solution, c'est tu utilises une arme qui fait des dégâts aux machines, sinon ça ne marchera pas.
Exactement.
Et ça c'est super dommage. Alors évidemment, sans spoiler, ça m'a rappelé Bioshock Infinite, qui a un peu le même souci, c'est qu'il y a une partie du jeu qui à un moment ça bascule vraiment vers bêtement de l'action et t'enchaînes des salles avec des arènes à l'infini avec des ennemis, et le jeu oublie un peu sa narration derrière, et moi j'avoue que ça m'a un petit peu dérangé, parce que finalement ce qui démarrait comme un espèce de truc survie avec vraiment cette paranoïa des mimiques et tout, au bout d'un moment ça s'installe en étant un bête jeu d'action comme on en attend que ça.
Ouais, ça termine un peu sur cette note-là, et c'est vrai que c'est vraiment dommage. Moi, j'en suis ressorti vraiment avec une espèce d'amertume du jeu, alors qu'en fait, j'ai même relancé une partie tellement que j'avais aimé d'autres.
Les premières heures, elles sont folles. Je pense que la first hour experience, comme on parle des fois, quand tu découvres pour la première fois que tu es dans une simulation et que tu commences à découvrir la réalité de ce qui se passe derrière et tous les mensonges autour de ton frère et de toi, c'est génial. C'est vraiment très bien fait, c'est très bien amené, c'est très bien mis en scène. Mais après, au bout d'un moment, en fait, ils oublient tout ça, t'as l'impression, pour se concentrer sur des objectifs plus terre à terre à base de va à tel endroit, ouvre des portes, trouve des trucs, casse des choses et tue des ennemis en par son paquet de sang, quoi.
Ouais, surtout que c'est vraiment le monde, enfin Talos One est vraiment construit comme un Metroidvania, donc c'est vraiment jeu sur une porte, elle est fermée, donc faut que tu ailles la chercher la clé là-bas, et puis tu ouvres la porte, et puis finalement tu te rends compte que l'objectif il est pas là. Donc c'est vraiment tous ces petits prétextes qu'il y a toujours dans les Metroidvania et qui sont pas si dérangeants, mais c'est vrai que le jeu te balade et te balade et te balade, et à la fin t'as cette espèce de moment avec tous les robots où ils te demande de faire un espèce de maxi détour dans toute la station, et c'est vrai que ça pète complètement le rythme du jeu et sa proposition, alors qu'on allait vraiment sur l'espèce de rush final. Tu dis ça y est, on va pouvoir atteindre la conclusion, et non, elle est décalée voilà, de quelques heures.
Je veux bien comme t'as les mots en anglais qui viennent d'abord.
Mais oui, c'est terrible. Et donc c'est vrai que sur le côté gameplay, si au début t'as vraiment toute cette richesse que tu te prends dans la tronche et qui est vraiment super chouette, on a tendance malheureusement avec cette richesse à tomber dans cette zone de confort. Par contre, sur le côté monde cohérent, monde simulé, là je pense qu'il faut quand même saluer donc le travail de la construction de Talos One.
Ouais, parce que c'est vraiment la station, en fait elle est imbriquée, on peut se balader dans toute la station, il n'y a pas d'endroit, il y a des endroits qui sont bloqués, mais on peut toujours trouver des solutions pour contourner les sécurités ou les portes, ou trouver des passages secrets, etc. Et c'est vraiment construit comme un ensemble complètement cohérent, avec des colonnes. Je veux dire, ils ont même été jusqu'à réfléchir pour que certains tuyaux ou certaines lignes aillent vraiment bien d'un endroit à un autre, et que c'est logique que ça fonctionne comme ça. Et la façon dont ils ont construit à la fois le lieu mais également ses habitants est juste ahurissante en termes d'investissement, le temps que ça a dû leur prendre, j'ose même pas imaginer.
Et la petite note en plus, c'est qu'on peut sortir de la station dans l'espace et voir en fait à quoi ça ressemble de l'extérieur, avec en plus ce gameplay vraiment où tu flottes. Enfin, moi j'ai eu un moment, parce que quand t'es dans l'espace, il n'y a pas de notion de haut, bas, gauche, droite, t'as pas vraiment de référent. Et normalement dans l'espace, quand tu regardes en l'air, la caméra se bloque au bout d'un moment. Et en fait, si tu regardes en l'air et que tu continues, tu tournes en arrière, ouais. Tu vois, tu fais un petit looping arrière. Et moi j'ai eu un petit moment où mes yeux et mon cerveau sont un petit peu sont déphasés pendant une demi-seconde. Mais ouais, t'as tout ce gameplay là où, donc comme tu disais, t'as les zones qui sont vraiment interconnectées, et donc t'as toute cette notion de backtracking, un peu de level design à la Metroidvania, ouais. Et ces moments où tu vas sortir de l'espace et du coup potentiellement tu vas retrouver backtracker vers des zones, mais en y allant de l'extérieur, depuis l'espace,
faire une espèce de voyage rapide entre guillemets diégétique, quoi, c'est à dire tu sors de la station pour y rentrer ailleurs
Et ça fonctionne super bien parce que comme l'échelle est respectée, les dimensions, ce qui se passe à l'intérieur fait la même taille qu'à l'extérieur, et ça a l'air de rien. A priori il y a tout un tas de dimensions, et j'avais vu une vidéo d'un type justement qui avait essayé de vérifier, et en gros les échelles sont respectées à l'extérieur comme à l'intérieur, donc c'est vraiment un tout cohérent dans tous les sens du terme. C'est vraiment bluffant.
Il le disait, l'environnement artiste, il y avait quelqu'un qui lui avait posé la question, il lui a dit est-ce que c'est 1-1, est-ce que c'est vraiment l'extérieur, c'est l'intérieur, il lui avait dit j'aurais aimé que ça soit pas le cas, tellement ça a été difficile en fait reproduire, à vraiment créer ce qu'ils appellent cette espèce de space dungeon, quoi. C'est vraiment un donjon de l'espace qu'ils ont voulu créer, un jeu qui se déroule dans un seul grand donjon comme ça, et ça a été, j'imagine, un vrai challenge à créer, parce que c'est impressionnant de l'extérieur, mais c'est aussi très impressionnant de l'intérieur. Il y a un gros travail sur la décoration, il y a les plafonds qui sont très très hauts, donc il y a vraiment une espèce de faste en fait, de richesse, et c'est vraiment c'est le QG en fait de Transtar, donc à la fois c'est une station de recherche, mais c'est aussi leur espèce de vitrine en fait, c'est vraiment, voilà, c'est leur grande fierté. Enfin, il y a quand même des espèces, vous savez, des espèces de lions dorés à l'extérieur, il y a des gargouilles quoi, sur la station.
Puis t'as le nom, je crois, affiché en grand, genre Transtar, enfin au cas où t'oublierais qui est ton employeur, tu vois, mais c'est pour le voir depuis la Lune, je pense, ou de la Terre.
Ouais, peut-être, ouais.
Mais il y a ce côté justement complètement mégalomane de la société, bon évidemment ça fait partie de la façon dont ils ont pensé Transtar, hein. C'est vraiment une critique à pas du tout voilée des grandes corporations actuelles qui se prennent pour les maîtres du monde. Et ce qui est rigolo, c'est que du coup, à l'intérieur même, au niveau de l'esthétique, ils ont essayé de rendre ça compréhensible sans même avoir besoin de nous l'expliquer. Parce que comme tu dis, on est dans du grandiose, on est dans du faste, il y a du bois,
il y a du marbre, il y a de l'or
et tout. Voilà, enfin, dans l'espace, ça a dû être une merde sans nom à pouvoir ramener ça, tu vois, par petite fusée à chaque fois. Non, mais du coup, c'est vrai que tu sens en fait toute la démesure et l'argent qui a été investi dans cette énorme station. Et tu vois que c'est un petit bijou. Et même au niveau des développeurs le fait comme ça, qui respecte l'échelle. Moi, ça fait partie des trucs, tu vois, ça me donnerait des cauchemars si j'étais développeur, parce que ça doit être une horreur tu vois, je veux dire, tu rentres dans n'importe quelle maison de Skyrim, elle est beaucoup plus grande à l'intérieur que ce qu'elle est à l'extérieur, mais tout le monde s'en fout, tu vois, je veux dire, ça nous dérange pas, on le sait, c'est pas grave, on l'accepte. Là, ils se sont fait chier à ce que tout soit respecté, et c'est ce que je disais quand on faisait la préparation, c'est que au bout d'un moment, comme ils commencent à vouloir avoir cette espèce de rigueur où ils essayent d'atteindre un idéal qui s'éloigne au fur et à mesure que tu rajoutes des règles et des complexités, au bout d'un moment, tu te dis, bon, bah, il faut que la tuyauterie des toilettes, elle aille au bon endroit et qu'elle puisse sortir à l'extérieur pour que le caca, il soit éjecté dans l'espace. Et le propre truc, c'est que justement, ils en sont arrivés là. C'est-à-dire qu'ils ont créé une espèce de colonne qui traverse tout l'espace et qui était vachement logique, tu vois, dans le, où ils pouvaient transporter des matériaux. C'est une espèce d'énorme ascenseur et toi, tu peux l'emprunter pour pouvoir passer d'une zone à une autre. Enfin, tu te dis, mais c'est des malades, les gens qui font ça.
Moi, j'ai été vraiment fasciné par ce côté. En fait, la station, il y a 200 personnes qui y travaillent dedans et tu sens que tout a été fait pour te montrer que c'était possible. C'est-à-dire qu'il y a cette espèce de l'arboretum là, l'espèce d'espace détente, enfin une espèce de jungle tout en haut de la station. D'ailleurs, il y a le bureau aussi du boss en plein milieu. Mais moi, ça m'a fait beaucoup penser. Vous savez, on voit les GAFA, les Google, les Amazon, vous savez, où il y a l'espace détente, il y a le machin pour que les employés soient bien traités, qu'ils soient bien contents et tout. Donc il y a une culture d'entreprise en plus qui est beaucoup traduite dans le jeu. Mais aussi, bah voilà, tu vas traverser les quartiers de l'équipage, tu vas aller à la cafétéria, tu vas aller dans l'espace détente dans lequel il y a un petit cinéma. Donc il y a tous ces lieux en fait qui te font te dire que oui, il y a des gens qui auraient pu vivre là-dessus. En fait, il y a tout ce qu'il faut pour que des gens puissent concrètement vivre dedans, quoi.
Et il pose vraiment le souci du détail où bah, l'arboretum, si tu regardes bien, en fait, si t'as une certaine prise de vue, tu vois que en fait t'as des rochers, une cascade, mais les rochers ils sont faux. En fait, tu vois derrière t'as des poutres qui soutiennent cette façade. Ça doit être du carton, je sais pas quoi. Et sinon t'as la cascade qui tombe et t'as une espèce de surface où t'as des nénuphars et tout. Et en fait, tu peux la casser, c'est du verre en fait. Donc t'as toute ce côté d'illusion qui est entretenu par la station.
Ouais. Et pour aller encore plus loin, du coup, les 200 personnes, ils ont écrit l'histoire avec ces 200 personnes-là. Elles avaient un nom, elles avaient une fonction, elles avaient des relations, elles avaient un chef, un sous-chef, des collègues, des emmerdes, des problèmes, des secrets à partager. Et ils ont écrit, ils réalisaient tout ça pour faire une espèce d'immense toile qui donne un monde complètement cohérent. Et le truc, c'est que tu peux totalement passer à côté, ce qui a été mon cas. Je l'ai découvert en fait a posteriori en m'intéressant un peu plus au jeu.
Ouais, c'est ça. Il y a vraiment une espèce de... Bah, déjà, bon, ils ont cette espèce de recette d'avoir les mails, les audiologues, ça c'est des choses qui sont quand même assez classiques dans cette formule-là et qui fonctionnent plus ou moins bien parce que bon, c'est vrai que parfois c'est un peu rébarbatif toute cette lecture, mais c'est vrai qu'ils arrivent quand même à faire naître des histoires grâce à la narration environnementale, tous ces audiologues, ils arrivent à faire naître tous ces personnages. Il y en a plein, des personnages dont moi je me souviens. Il y a le couple là, des deux meufs là, d'ailleurs il y en a une dont tu dois rechercher, en fait tu dois recomposer les fragments de sa voix. Et t'as toute une espèce de scène de passage dans les quartiers de l'équipage, et tu peux arriver, tu comprends qu'elle voulait se retrouver, si elle se retrouve, tu pouvais taper deux fois à la vitre, et elle peut apparaître comme ça, et en fait t'as une espèce de vraie récompense narrative, parce que tu dis, waouh, elle est encore vivante, elle est encore là, et c'est toi, en fouillant, en retraçant toute leur relation, tu vas pouvoir arriver à ce moment-là. Ça, c'était vraiment chouette.
Et fun fact, moi j'étais sorti dans l'espace pour retrouver l'endroit, et évidemment, bah, là il y a les limitations du jeu, elle était pas là, et t'avais la vitre, parce que tu la vois, je crois, d'une piscine, et donc une vitre transparente. En tout cas, de l'intérieur, tu vois l'espace, mais quand t'es dans l'espace, la vitre, elle est noire, tu vois. Elle était peut-être sans teint, bon, je sais pas.
Et puis, t'as plein d'autres personnages. J'avais vu une conf où il parlait d'un mec, justement, un employé qui était un ancien champion de baseball. Et en fait, bah, tu peux arriver, si tu vas trouver sa chambre, bah, tu vois un espèce de fanion avec son équipe. C'est marqué gauche et plus qui, quelle équipe, quoi. Et en fait, c'est lui qui distribuait des gants de baseball, en fait, signés à tous les membres de l'équipage. Mais il y en a plein qui s'en foutaient. C'est pour ça que t'en retrouves plein dans les poubelles, en fait. Donc, t'as plein de petites histoires, en fait, qu'ils ont mis en place. Il y a ces fameux aussi, les deux amoureux qui se retrouvaient dans le tuyau de ravitaillement, qui se faisaient des rendez-vous un peu en apesanteur, hein, Calogero, si tu nous écoutes, on t'embrasse. Mais voilà, tu vois une petite bouteille de champagne, en fait. Je trouve que tous ces petits éléments-là, auxquels tu peux complètement les zapper, en fait, ils arrivent à donner corps, encore une fois, à cette station et à cette simulation. Ouais. Et c'est ça qui arrive à t'ancrer dedans et à t'y faire croire, quoi.
Un petit détail que j'avais beaucoup aimé, c'était, on avait parlé du pistolet à colle, là, qui te fait des espèces de météorites, enfin, des bons gros blocs de colle. Et dans un bureau, t'as un bonhomme qui fait ça. Bleu, ouais. Et tu dis, bah ouais, j'imagine, tu vois, des employés vraiment se faire leur petit bonhomme avec ce pistolet à colle.
Bah, de toute façon, tu retrouves, en fait, plein de traces et de preuves vivre, du passage des humains et de leur vie, et du fait qu'ils n'étaient pas des personnages de jeux vidéo, c'était vraiment des employés qui, des fois, ils se faisaient chier parce qu'ils étaient dans l'espace et qu'ils auraient voulu faire autre chose, et qui cherchaient en fait à vivre vraiment leur quotidien de la meilleure manière possible. Et ça, là-dessus, c'est vrai qu'il faut en fait se forcer à aller le chercher, parce que le jeu, devenant un jeu d'action un peu rapidement, peut t'empêcher, peut te faire perdre de vue le fait que tu es dans un univers aussi riche. Tu vois, au début, tu vas t'intéresser au moindre petit truc, et petit à petit, moi, j'ai perdu en fait de vue ce truc-là. Et au bout d'un moment, je me disais juste, je voyais un typhoon, je m'en foutais de savoir qui c'était. Tu vois, je me disais juste, c'était un typhoon. J'ai besoin de ta matière recyclable pour améliorer mon pistolet. Donne-la-moi, merci. Et c'est tout. Donc c'est vrai que c'était un peu dommage, mais par contre, en revoyant après le jeu, en lisant les interviews, en regardant des vidéos, etc., je me suis rendu compte du taf qu'ils ont fait, et je me dis que c'est quand même des gros malades chez Arkane, parce que justement, c'est, tu te rajoutes une charge de travail qui est colossale, et à la fin tu te tires une balle dans le pied parce que finalement tu fais un FPS.
Disons que c'est une charge de travail qui ne va pas être bim en frontal, qui ne va pas être un vrai argument pour beaucoup de gens qui vont jouer à ton jeu. C'est-à-dire que c'est terrible quand même de passer autant de temps à travailler sur quelque chose auquel les gens vont zapper, quoi. Tu vois l'espèce de partie de, tu sais, ils font une espèce de partie de Donjons et Dragons là, de jeu de rôle papier, et en plus ce qui est cool c'est que ils ont quand même dans tous ces petits trucs narratifs, ils ont essayé d'insérer des petits puzzles pour te dire, si tu recherches bien, tu pourras avoir peut-être des neuromodes ou des trucs comme ça. Moi, je me souviens, il y a un truc que j'avais bien aimé, c'est, tu sais, à un moment, tu vas dans une espèce, là, le professeur Calvino, là, ou docteur Calvino, et tu vois, t'as une espèce de salle avec trois miroirs, comme ça, et t'as une espèce de scène, tu le vois, qu'il ouvre un truc secret avec sa tasse de café.
Bon poids,
exactement. Et là, tu te dis, tiens, vas-y, je regarde dans la pièce, et je vais essayer de trouver la tasse, et bim, tu peux la trouver, elle est par terre, en mode random, comme n'importe quel objet, tu la prends, tu la mets dans le truc, et bim, t'as
marche.
Ça, c'est vraiment les petits moments un peu ce que j'appelle escape game. Comme j'ai été game master dans escape game, j'en vois un peu partout. Mais dans ces jeux-là, t'en as pas mal. Tu vois, tu retournes un tableau, trouver des chiffres, et des trucs comme ça. Et ça, c'est quelque chose que j'aime bien dans ces jeux. C'est pas bien compliqué, mais à ce côté un peu récompensant. Et surtout, ça rejoint ce que je parlais tout à l'heure, c'était ce côté d'agency, d'agentivité, c'est de dire voilà la tasse, tu la poses là. Bim, il va avoir cet effet-là parce que dans le jeu, ça a été conceptualisé comme ça, quoi.
Et ça encore, c'est les perches les plus évidentes.
Ouais, tout à fait.
Qu'on peut tendre, mais c'est vrai que comme tu disais, il y a plein de choses que tu peux rater. Mais justement, le fait que tu puisses les rater, c'est ce qui donne ces petites saveurs. Quand toi tu l'as fait, toi tu l'as trouvé. Tu disais par exemple, je sais pas, il y a des amoureux, que ce soit la bouteille de champagne qu'on trouve ou dans l'arboretum, tu as des initiales qui sont gravées dans un arbre au couteau, et ça c'est toi qui l'as vu en fait. À aucun moment le jeu était ça. T'as des petits détails. Moi je me souviens dans l'arboretum, j'avais bien aimé aussi, t'as des bancs ils ont des plaques en fait qui sont dédiées, alors peut-être aux plus gros donateurs ou aussi à des personnalités publiques, et t'as genre Kennedy qui donc n'est pas mort, tu vois, et t'as cette plaque de Kennedy et t'as cette date de naissance et de mort, et en fait il est mort à peut-être 150 ans parce que t'es dans un univers où il y a des neuromodes et les gens vivent longtemps, et donc tu vois toutes ces petites attentions en fait que plein de personnes auraient pu rater, et c'est ça qui te scotche aussi.
Alors ça c'est du boulot en plus, mais pour le coup tu vois, je vais pouvoir faire référence à notre partenaire Fleur d'édition parce que dans mon bouquin sur The Witcher forcément j'ai posé la question au quest designer. Évidemment. Non mais parce que justement cette question là, tu vois, elle est intéressante. Quand je discutais avec le lead quest chez CD Projekt, tu leur dis mais pourquoi vous vous emmerdez à faire autant de possibilités ou autant de quêtes secondaires, parce que la plupart des gens, tu vois, ils vont passer à côté. Mais justement eux en fait ils voient ça, ce qui m'expliquait c'est que justement plus ils vont enrichir le truc, plus les gens vont en parler entre eux et vont se rendre compte en discutant qu'il y a des choses à faire, et plus le bouche à oreille devrait fonctionner. Alors le truc c'est qu'avec Prey a priori ça a pas fonctionné. Pourquoi? Parce que justement le jeu te bloque à un moment donné, en fait ne te pousse plus à chercher en permanence, tu vois. Et moi c'est ça un peu qui m'a dérangé, parce que vraiment j'ai vraiment eu l'impression d'un jeu en permanence tiraillé entre deux objectifs qui arrivait jamais vraiment à coopérer.
Et sinon, après, comme Dishonored le faisait avant lui, et on peut trouver ça un petit peu dommageable, c'est qu'il t'indique en fait sur le HUD où est ton objectif, où par exemple ta mission ça va être rendez-vous au Psylab, sais pas quoi, et en fait le Psylab il est indiqué, tu peux trouver le plan de la station, tu peux trouver des flèches qui te disent que le Psylab il est là-bas, mais en fait sur ton HUD tu vas avoir Psylab à 56 mètres en haut à droite par rapport à toi, tu vas y foncer, et Dishonored aussi ils ont un petit peu cette même structure où toutes les salles sont indiquées. Et tu peux toi-même en fait réfléchir et trouver où est ta cible, mais par défaut le jeu va t'indiquer où c'est, et ça c'est une décision, est-ce que c'est l'éditeur qui force, est-ce que c'est le studio aussi qui se dit on peut pas se permettre de plonger les gens dans un environnement sans indication parce que ça demande beaucoup d'efforts. C'est difficile, et c'est un truc récompensant pourtant.
Moi je trouve que c'est super intéressant, parce que non seulement déjà comme ils mettent toute cette signalétique en place et qu'ils arrivent justement à faire des mondes cohérents, normalement tu dois te retrouver dedans. C'est-à-dire que si tu te bases sur des plans, tu te dis, bon, bah, ok, il y a la flash, là, c'est marqué bureau du Roberto Calvino. Tu sais que si tu dois aller là, tu te dis, mais c'est peut-être là que je vais aller. Donc, t'as pas besoin de ces objectifs supplémentaires. Mais je trouve que ça témoigne, en fait, énormément de la complexité de leur proposition et surtout de l'investissement qui te demande, en fait, ces jeux-là. Parce que c'est des jeux qui sont un peu prises de tête, entre guillemets, parce que si tu veux vraiment profiter de leur richesse, bah, il faut s'y investir pleinement, quoi. Il faut être prêt à jouer de manière un peu patiente, ne pas se laisser complètement embrigader par ce truc d'action, tu vois, et qui pourtant est là et présent, tu vois, et il y a plein de choses narratives qui sont là pour te dire, eh, va là, parce que c'est là que ça avance, alors qu'en fait, t'as toute cette richesse-là, et qu'en plus, tu peux vraiment en profiter à ton rythme, quoi.
Ouais, tu m'avais conseillé justement de virer le HUD pour pouvoir jouer de manière un peu plus immersive. Sim. Pardon. je voulais la faire. Bref, et ça a marché. Parce que du coup, après, bah, je me suis perdu, tu vois. Donc, j'ai passé beaucoup plus de temps à avancer dans le jeu. Mais pour le coup, j'ai fait gaffe à mon environnement. Mmh. Parce que à partir du moment où on m'indique où je dois aller, je m'en fous. Tu vois, c'est ça. Je vais juste à l'endroit où on me dit. Si c'est pas une ligne droite, bon, de toute façon, je prends un escalier. Au pire, il y a forcément une bouche d'aération. Donc, tu vois, tu peux toujours trouver ton chemin. À partir du moment où tu l'enlèves, bah du coup c'est plus vraiment le même jeu, mais ça montre, comme tu disais, la complexité et l'investissement qui demandent des joueurs, mais ça montre aussi du coup la frilosité du studio ou de l'éditeur ou des deux ou j'en sais rien, parce qu'ils n'ont pas osé aller au bout de leur truc. Et je pense que pour les développeurs, ça doit être une espèce de frustration de se dire, on a bossé comme des malades, on a inventé la vie. Je peux te raconter ce qui s'est passé le 4 octobre 2037 sur cette personne. Elle a fait caca et elle a mangé ça et elle a vu ça, et après elle est voir
kebab.
Il y avait un kebab ce jour-là à la cafette, et tu peux, ils ont raconté ça, ils se sont embêtés à écrire tout ça, et à la fin, en fait, on leur a dit, bon, bah, finalement, il faut un jeu mainstream, donc vous nous mettez des pampans boum boum.
Je sais pas, moi, c'est vrai que je serais vraiment curieux. Bah voilà, si jamais il y a des gens d'Arkane qui nous écoutent, bah dites-nous.
Ouais, comment ça s'est vécu, parce qu'il n'y a pas eu de post-mortem.
C'est ça, ouais, c'est ça.
Et ça se sent, en fait. Tu vois, quand toi, t'es joueur et que tu fais un peu attention à ces détails-là, tu sens quand les développements, ils sont difficiles. Tu vois, c'est comme si t'allais dans une maison et que tu voyais qu'il y avait des trucs, les murs, ils sont pas droits, tu te dis, il y a eu des problèmes pendant les travaux. Bah là, ça fait pareil, t'as le même ressenti, tu te dis, mais c'est pas possible, vous avez une proposition, puis le jeu d'un coup ça devient autre chose. Donc qu'est-ce qui s'est passé entre les deux? Bah tu sais forcément que toi, ça veut dire qu'il y a eu des tensions, il y a eu des pressions, il y a eu des problèmes de planning, il y a eu des problèmes de budget, il y a eu des problèmes de com, il y a des problèmes de discussion, enfin de prise de décision, de management. Tu peux imaginer tous les bordels que tu veux. Enfin, je veux dire, je citais Anthem tout à l'heure, il suffit de jouer quelques heures Anthem pour voir que ça a été un bordel sans nom, le développement, ça, le jeu crie toute sa douleur en permanence.
Non, mais puis surtout même, bah, Colo Antonio a quand même été interviewé a posteriori après la sortie du jeu, et il explique un truc qui est quand même, enfin, tu vois, quand t'es pas dans le monde du développement, c'est choquant de te dire que le jeu, ils arrivent à vraiment envisager la tronche à peu près qu'il a, comment, si ça marche ou si ça marche pas. Ils disaient, c'était 3 mois avant la sortie, parce qu'ils parlaient justement du passage avec les robots. Ils disaient, bah voilà, sur le papier, c'était ce qu'on demandait, tu vois, cette espèce d'idée de changer le rythme, de mettre face à un problème un petit peu différent pour te sortir de sa zone de confort. Et ils se sont rendu compte que ça ne marchait pas très bien finalement quand ils ont tout mis ensemble. Mais le problème, c'est qu'il restait 3 mois, et ils disaient, bah voilà, on a réservé les trucs, les sorties, elle est prévue, Bethesda, c'est bon, c'est validé, et tu ne peux plus faire autrement, tu vois. Et il disait encore, on a essayé de faire tout ce qu'on peut pour essayer de modifier le truc, et c'est vraiment la version que vous avez jouée, c'est vraiment pas la pire, ça c'était bien pire avant. Mais c'est là que tu te rends compte de la difficulté déjà de faire un jeu vidéo, ça on le sait, c'est déjà un miracle que des espèces de monstres comme ça, mais encore, après, c'est pas le plus grand monstre, hein, de AAA, mais que des gros jeux comme ça arrivent à tenir debout. Mais tu te dis, tu te rends compte quand même, c'est 3 mois avant, quoi, pour arriver à sortir un truc comme ça. Et en plus, quand tu pars dans des jeux qui ont une complexité, qui se tiennent sur des règles, sur des machins, c'était le système designer qui disait ça par rapport à Dissonance. C'est à chaque fois que tu rajoutes une putain de pouvoir, il faut que ça marche encore, il faut que ça ne comme elle peut rencontrer d'autres règles, bah tu peux complètement casser le jeu en fait en rajoutant un pouvoir qui te dit, ah, ça a l'air cool, et puis en fait tu te rends compte que bah ça marche pas du tout avec un autre pouvoir, quoi.
Bah c'est toute la complexité de ces jeux qui utilisent comme ça beaucoup de simulations, c'est qu'à force de créer des systèmes qui interagissent entre eux, bah tu risques de provoquer des situations où ça va donner des résultats complètement aberrants, où tu vas te mettre à voler, où tu vas pouvoir te mettre à créer de la matière ou à détruire de la matière, et tu vas te retrouver avec un écran bleu sur ton ordi en 2 secondes parce que le truc il commence à faire des divisions par zéro et ça marche plus, quoi. Donc c'est un travail qui est extrêmement complexe, mais ça montre aussi que bah ils ont peut-être pas eu le temps en fait de le développer, parce que si, je veux dire, eux, dans leur planning de production, ils savaient qu'ils auraient leur jeu complet 3 mois avant la sortie. Et donc, prévoir que 3 mois de Q&A sur un jeu pareil, c'est pas irresponsable, mais pas loin. Parce que vraiment, tu te dis, en 3 mois, imaginez, vous êtes testeur, ok? Le jeu, il dure 20 heures. Toi, tu veux tester une séquence de la fin. Donc, tu peux te prendre ta sauvegarde, t'es à la fin. Tout va bien. Sauf que, toi, ton but aujourd'hui, c'est de tester la progression du joueur pour savoir si ça va marcher. Il faut que tu te tapes les 20 heures de jeu à chaque fois. Tu vois, enfin, je reviens encore une fois sur ce que je disais sur mon bouquin CD Projekt. Il y a un des types, il disait, pendant un an, j'ai joué à The Witcher et je l'ai fait à peu près 40 fois. Tu vois, c'était le game creator. À la fin, il a passé un an à faire le jeu tout le temps, en boucle. Il n'a joué qu'à ça, il n'a rien fait d'autre. Il connaît tout le jeu par cœur parce qu'il a passé des milliers d'heures à jouer à son jeu en boucle. Et il a pris un an pour faire ça. Et du coup, tu te dis, ben, en termes, en différant les studios, enfin, tu vois, les titans, tu vois, parce que forcément, j'ai l'exemple de The Witcher 3, parce que pour moi, ça m'y fait penser en ce moment. Mais tu vois, sur les 3 ans ou 4 ans de développement, il y a eu 2 ans et demi, voire 3 ans, c'était que le doublage. Et donc, en gros, pendant 2 ans, 3 ans, ils ont joué sans les voix, sans les dialogues. Tu vois, c'est.
Tu te rends pas compte.
En fait, en général, le jeu, il arrive, tu sais, les pièces, elles s'embriquent, mais quelques heures avant que nous, on les envoie. Tu vois, c'est pour ça qu'on a des patchs day one. C'est parce que, au moment où ils disent, ça y est, le jeu, il est gold, eux, ils sont encore en train de trimer comme des malade pour que le jeu il soit vraiment gold le jour où on le sort. Et c'est pas juste de la flemme ou du manque de, c'est pas que de la mauvaise management, du mauvais management et tout ça, c'est juste que le développement de jeux vidéo c'est un bordel sans nom, c'est vraiment un bordel sans nom. Et des fois, bon, quand en plus les mecs ils se mettent des contraintes à base de et si on racontait la vie de 200 personnes dans l'espace, bah là forcément c'est encore plus difficile quoi.
C'est vrai que nous, ça nous paraît facile de dire, je sais pas, il y a trop de neuromodes, les pouvoirs ils sont peut-être un petit peu trop statistiques, il n'y a pas beaucoup de différence entre le pouvoir de l'électricité, du feu ou kinétique, les pouvoirs qui sont les meilleurs, c'est peut-être un petit peu ceux qui changent le gameplay, par exemple Dishonored, que ce soit du blink ou, je sais pas, se faufiler dans un rat ou dans l'esprit de quelqu'un, c'est ce qu'on préfère, mais c'est le genre de truc, bah, quand t'as que vision de ton jeu 3 mois avant la sortie, c'est pas un pouvoir que tu peux te permettre de mettre en place, c'est juste, c'est pas possible.
Et tu peux pas le modifier complètement, parce que si en plus t'as communiqué dessus, ben, du coup, tu te retrouves avec un espèce de d'effet No Man's Sky où t'as annoncé des trucs puis ça n'est pas dans le jeu final, donc on a bien vu ce que ça pouvait donner. Sur un studio comme Hello Game, bon ça va, ils se sont pris du shitstorm pendant 2 ans. Si c'était Bethesda ou Arkane qui faisait ça, j'ose même pas imaginer, on en parlerait encore. Fallout 76. Non mais ça aurait été une catastrophe.
Tu vois que de toute façon, bah voilà, Colle Antonio, s'il a quitté sa propre boîte après, je pense que voilà, il y a une espèce de forme d'épuisement, tu vois, qui est fatigué. Et puis il le dit aujourd'hui même, il se rend compte, il disait voilà, aujourd'hui on met 10 jours pour faire une chaise.
Ouais, alors jours,
alors, bon, pas alors de j'ai lu une autre interview où il disait 10 jours. Alors,
moi j'ai lu le tweet.
Il exagère, c'est lui aussi.
Il
faut 4 ans pour faire une chaise, madame.
Non mais c'est vrai, toute cette production là, et c'est vrai que quand t'es intéressé dans ce truc de système machin, finalement c'est un peu anecdotique et pourtant bah ça a une vraie importance dans les propositions actuelles et ouais, c'est, je pense que c'est dur de faire des jeux comme ça en fait, c'est vraiment pas évident et c'est pour ça que c'est que quelques personnes qui tournent un petit peu en rond et qui restent un petit peu dans cet univers là parce que bah c'est un peu les seuls artisans à savoir faire un petit peu ça, à y arriver et à essayer d'y faire vivre quoi.
Après cette histoire de chaise qui met beaucoup de temps, c'est aussi un peu le syndrome entre guillemets Arkane, parce qu'eux ils ont été quand même connus pour faire vraiment des objets où il y a énormément de détails. Bah après on en a pas parlé, mais on disait que c'est un truc qui s'est développé dans les années 70 et il y a toute une déco en fait de l'époque où il y a vraiment des cours artistiques, on voit qu'ils ont évolué depuis les années 70, enfin il y a vraiment un détail qui est incroyable, pas que dans le level design mais aussi dans l'architecture, dans les œuvres d'art qui vont ponctuer notre parcours. Et bah c'est Arkane qui s'est un petit peu aussi différencié par rapport aux autres studios à ce niveau-là. Donc ça rajoute encore une chose, parce qu'il y a des mecs qui, je sais plus, c'était Sébastien Mitton qui était le directeur artistique sur Dishonored, disait bah t'as des mecs qui sont spécialisés en texture, tu vois, c'est vraiment des gars qui, et eux ils vont pas forcément venir du jeu vidéo, enfin ils vont avoir un background qui va être d'autres milieux artistiques, et ils vont apporter toute cette patte en fait dans la production Arkane. Et donc tout ce boulot, ça se rajoute déjà, comme on disait, l'espèce de casse-tête qui est déjà un jeu vidéo, en plus un immersive sim, et en plus t'as tout ce chargotrage.
Ils se rajoutent au millefeuille, ils rajoutent des trucs de plus en plus.
Ils font des trucs de luxe
en fait, esthétique.
Ils font un jeu de luxe quoi.
Ils ont inventé un nouveau courant artistique, tu vois. Ils ont créé une espèce de néo art déco version un peu chelou qui marcherait dans l'espace, tout en ayant évidemment à cœur que ça puisse fonctionner, parce qu'ils ont, on avait toujours cette contrainte de que ça soit crédible. Donc plus ils vont rajouter de choses, plus ça va devenir complexe. Et a fortiori, comme le jeu vidéo est un art qui est lié à la technologie, plus on va avancer dans le temps, plus ça va devenir compliqué de faire d'immersive sim. Donc c'est pour ça que c'est pas un genre, ou en tout cas une philosophie qu'on, tu vois, ça reste pour moi un idéal à atteindre, mais ça sera toujours plus complexe, parce que plus on va avoir de la puissance de calcul, plus on va avoir de la mémoire, plus on va avoir du ray tracing. Enfin, t'imagines un immersive sim où le ray tracing va pouvoir fonctionner, et les mecs ils vont se dire ah bah oui, mais ça veut dire que dans le reflet, dans la flaque, tu vas peut-être pouvoir lire le mot de passe de quelque chose, ou j'en sais rien. Ça va devenir de plus en plus taré, parce que les textures vont devenir de plus en plus complexes, le calcul des matériaux va devenir de plus en plus difficile.
Il y a la VR qui va arriver aussi.
Il y a la VR qui va arriver. Enfin, en gros, vraiment, plus on va avancer dans le temps, plus ça va devenir quasiment impossible de réussir à faire un immersive sim. Donc c'est pour ça que, bizarrement, les meilleurs immersive sim étaient dans le passé, parce que bah, ils étaient limités par la technique, tout simplement. Enfin, en tout cas, c'est comme ça, moi, que je le ressens. Mmh.
En fait, c'était plus facile d'atteindre le maximum, en fait, peut-être à l'époque, et c'était plus original, tu te démarquais peut-être un petit peu plus. Et c'est vrai que l'immersive sim, ils avaient vraiment eu leur... bah, l'âge d'or, c'était un petit peu début 90, début 2000, il y a eu un petit creux de la vague avant Dishonored et tout, et comme disait Hugo, c'est vraiment des vieux la vieille, et comme toi, tu disais, Exer, c'est un idéal à atteindre, et tu sens que c'est ça qui les anime, en fait, c'est des gens, ils ont vraiment eu cette vision à l'époque, ils ont joué, que ce soit Cole Antonio en jouant Ultima, ou Ricard Aubert en jouant aussi, alors je sais plus lequel c'était, peut-être, je crois que c'était Sif, il citait, et c'est des gens, quand ils ont joué à ces jeux-là, ils se sont dit, ouais, le jeu vidéo, c'est ça que je veux faire, je veux créer ce genre d'environnement, et sur Prey, t'as des mecs de Origin Systems, ou de Looking Glass Studio, l'un ou l'autre, je sais plus, mais c'est des gens, ils font les mêmes jeux depuis 20-30 ans, quoi.
Ouais, mais ils pourraient y passer leur vie, parce que justement, à force, comme ça va devenir, comme je disais, de plus en plus compliqué, ils arriveront jamais, malheureusement, à l'atteindre. Donc tu vois, il y a une espèce de paradoxe.
Est-ce qu'il n'y a pas, justement, qu'il faut qu'ils avancent, que cette nouvelle chute, entre guillemets, de l'immersive sim, puisque, bon, Dishonored 2, Prey n'ont pas énormément fonctionné, les derniers, se disent, bah, peut-être qu'il faut aller chercher, justement, se concentrer sur le côté des systèmes, éventuellement les petites histoires qu'on peut raconter, mais qu'on peut bah, baisser un petit peu l'exigence esthétique, des choses comme ça, tu vois, faire des choix, parce que c'est toujours ça, c'est toujours une histoire de choix, et d'aller sur des résolutions qui sont peut-être un peu, enfin pas des résolutions, mais voilà, des textures qui sont peut-être moins travaillées, des choses comme ça, et choisir en fait ce qu'ils peuvent faire. Forcément, ce genre de jeu va continuer à exister d'une manière ou d'une autre, et ces gens-là, ils vont continuer à travailler, mais je pense que voilà, ils vont devoir faire des choix.
Et justement, le contrepoint, tu vois, je voulais monter la pression en disant c'est impossible, et Nintendo est arrivé. Et effectivement, avec Zelda Breath of the Wild, je trouve qu'ils ont arrivé avec une proposition qui, pour moi, tient de l'immersive sim, même si on peut toujours en discuter, on aura peut-être l'occasion de le faire un jour ou l'autre. Mais ils sont arrivés avec leur idée où tout fonctionne autour de systèmes, et il y a les éléments, il y a le poids, il y a le magnétisme, il y a tous les trucs, et tu peux jouer avec ça. Et le but, c'est de jouer avec ton environnement et de découvrir ça. Donc ils ont réussi, je trouve, à faire une proposition qui s'inspire de ce qu'était l'immersive sim, mais ils ont mis un holà, tu vois, ils ont mis un stop à un moment en disant là on arrête, tu vois,
ils ont fait des choix, voilà.
Non, il n'y a pas des taupes qui vont creuser des vrais trous qui existent vraiment sous la colline à côté du château d'Hyrule et qui pourraient au bout d'un moment faire s'effondrer les fondations. Parce que le truc, c'est que quand tu discutes avec des développeurs qui sont dans ce délire là, ils veulent aller à ce point là, tu vois, c'est les gens qui font les Dwarf Fortress, etc., ou les jeux avec des tonnes de systèmes comme Prison Architect et tout, ils ne se mettent aucune limite. À chaque fois qu'ils rajoutent un système, ça rend les choses beaucoup plus complexes, et ils continuent à faire des mises à jour. On en est à la mise
mais
à jour
eux,
12 000,
ça
ne
demande pas 10 jours à faire une chasse, quoi.
Bah ouais.
Parce que c'est des jeux beaucoup
plus
abstraits.
Oui, parce que c'est des jeux, justement, visuellement, ils sont moins impressionnants, et heureusement, parce que sinon, si t'imagines Prison Architect en 3D, je n'ose même pas imaginer.
Mais c'est pour ça, finalement, que bah, tous ces gens-là qui ont toute cette expérience, peut-être qu'à l'avenir, ils doivent la mettre au service, justement, de la gestion de projet, de savoir se mettre de limites, de savoir de mieux maîtriser, finalement, encore ces trucs-là, parce que bah, c'est une proposition qui est difficile j'arrive pas à trouver le mot en français, mais à pull out, genre à sortir, tu vois, à y arriver, quoi, et c'est compliqué.
Bah, attention, comme on le disait, à concrétiser.
À concrétiser, voilà, merci.
Mais comme on disait, de toute façon, c'est une philosophie, c'est pas vraiment un genre hyper, c'est pas une case vraiment dessinée, et ça peut se retrouver, comme tu disais, dans Zelda, mais t'as aussi Gone Home, par exemple, qui a été fait par Steve Gaynor, qui lui avait bossé un petit peu sur Bioshock 2, je crois, et qui lui aussi a été biberonné aux immersive sims, mais Gone Home, bah, dans sa petite échelle, dans son petit cadre, en fait, tu peux le voir aussi comme un immersive sim où tu as des objets que tu peux prendre qui ont un sens dans le monde où ils sont. T'as un souci du détail forcément proportionnel au budget qu'ils avaient. Hein, c'est pas.
Oui, mais la philosophie, en tout cas, de créer un monde cohérent est toujours là. Quoi.
Tu trouves des objets qui sont cachés, et le fait qu'ils soient cachés, ça a un sens par rapport à la personne qui a caché cet objet. Et c'est toi, tu vois, qui comprends un petit peu les motivations de cette personne.
Et ce qui est dommage, c'est que du coup, ben, c'est une philosophie qui est tellement fascinante pour les développeurs. Eux, ça les fait vivre, tu vois, ça les anime depuis 20-30 ans, ils essayent de faire la même chose. Et nous, en tant que joueurs, quand t'as ces petits moments, dont on a parlé tout au long de l'émission, de découverte, de moments eureka, de déclic, etc., quand tu découvres une mécanique, c'est tellement gratifiant, enfin, c'est tellement intéressant à vivre ça en tant qu'expérience de jeu vidéo, qu'on aimerait en voir beaucoup plus. Mais le truc, c'est qu'effectivement, plus on va vouloir aller loin là-dedans, plus ça va demander des moyens de fou, et ça va leur rendre les choses beaucoup plus complexes, sachant qu'on a vu, ils ont du mal à le positionner. Donc, c'est vrai que à l'avenir, je pense que des propositions comme un, comme on a eu dans un Zelda, je pense que c'est peut-être plus ce genre de direction-là que le genre pourrait suivre.
Enfin, que
le...
Surtout que c'est un genre qui, par définition, est anti-spectaculaire, entre guillemets, puisque tout est systématisé, il n'y a pas de cinématique, il n'y a pas de grosse mise en scène, bim, d'explosion, des trucs comme ça. C'est tout toi qui va créer éventuellement des choses un petit peu surprenantes. Et pour moi, forcément, quand tu essaies de faire en même temps un triple A, c'est-à-dire quelque chose qui va pouvoir toucher beaucoup de monde, bah, être aussi peu frontal finalement dans ta richesse, c'est-à-dire que toutes tes couches, toutes tes petites perles, bah, elles sont cachées dans ton jeu. Donc c'est pas quelque chose que bim, tu balances à la tronche des gens. Et je pense que ouais, c'est difficile à vendre, quoi. C'est difficile de vendre ta richesse alors que justement, pour la découvrir, il faut vraiment y mettre le nez dedans et aller gratter, quoi.
Ça, cette richesse, ouais, elle se passe beaucoup dans ta tête, tu vois. Tu vas pas montrer que t'as sorti une peau de banane de ton inventaire, tu fais yes, j'ai réussi à me faufiler.
Ou t'imagines le trailer avec la peau de banane et tu vois Max qui est là, genre
j'ai pensé à la banane.
Ils ont fait un bonhomme en colle.
One banana.
Des petits moments que j'avais adoré dans Prey, c'était que, comme on disait, tout est connecté, tu lis beaucoup d'emails, ça veut dire que chaque email que tu lis a été envoyé d'un autre ordinateur de la station. Et moi, j'aimais bien, tu vois, tomber sur un ordinateur qui a envoyé un mail dont je me souvenais. Et du coup, tu lisais aussi les autres mails qu'il a envoyés, qui avaient peut-être un lien. Tu arrives à tisser un peu une personnalité de la personne.
Parfois, il y avait double discours, tu sais,
c'est ça, envoyé.
Puis en fait, il dit carrément un autre truc à un autre gars.
Et comment tu veux le montrer en trailer? Ils ont réussi un petit peu à faire leur début, qui est cool à jouer et à montrer. Il est un petit peu intriguant avec ce jour de la marmotte / Truman Show. et ils ont réussi un petit peu, mais comme on disait, il y a toutes ces difficulté qui est liée à l'immersive sim, toute la difficulté qui était liée après, le nom du jeu, comment ils ont réussi à se vendre, est-ce que c'était un jeu d'horreur, un jeu d'action, c'est très compliqué.
Mais bon, moi c'est vrai que j'en suis ressorti vraiment avec même si j'avais l'amertume de la fin, j'en suis sorti quand même avec un bon souvenir et c'est un jeu pour lequel j'ai beaucoup d'affection et d'autant plus parce que ça a pas vraiment fonctionné pour lui. Donc bon, j'imagine que si vous écoutez l'épisode, peut-être il y a des chances que vous l'ayez fait, mais voilà, si c'est pas le cas, vraiment essayez parce que vous aurez aussi, malgré tout ce qu'on a pu dire, vous aurez tous ces moments en fait de découverte, de jouer avec les systèmes du jeu, même si ce n'est pas toujours parfait. Il y a quand même plein de choses à expérimenter et à vivre soi-même, et en ce sens, pour moi, c'est pour ça que c'est vraiment des vrais jeux vidéo, c'est que leur richesse, elle se retrouve dans ce jeu, dans cette interaction, dans cette expérimentation. Donc ça, vous pouvez encore le vivre, même si vous nous avez écoutés.
Parce que autant, on peut rejoindre un petit peu ce qu'avait dit Exa, le témoignage de je sais plus qui, de CD Projekt. Il y a un petit peu ça dans l'immersive sim, où quand tu l'as fait, tu vas discuter avec l'autre personne qui l'a fait aussi, et tu dis, ah ouais, toi t'as fait ça, toi t'as vu ça, toi t'es passé comme ci, t'es passé comme ça, t'as pris tel pouvoir pour faire telle chose, et toute cette richesse, elle se retrouve beaucoup dans les discussions aussi.
Et puis même, moi, pendant ma deuxième run, j'ai encore pris beaucoup plus de plaisir en fait, tout simplement, à essayer de fouiller ces histoires et tout, et c'était vraiment génial, tu vois, le côté gnome de près, c'est vraiment, je l'adore, enfin vraiment, je tiens vraiment mon chapeau aux writers, à tous les environnements d'artistes, parce que vraiment, ils ont fait un travail incroyable, et c'est passionnant à explorer toute cette station, donc rien que pour cette station, c'est un petit bijou de level design, merveilleux.
Ça sera le mot de la fin, hein. Je pense que là Hugo il nous fait le petit sens de la formule. Moi ça m'a donné envie de le refaire, donc je pense que j'aurai jamais le temps, mais le jour où je pourrais, justement je jouerai, je pense, en mode facile pour pas m'embêter avec les combats, et par contre je m'amuserai tester les trucs, faire des expérimentations, essayer de comprendre, parce que du coup à un moment je me suis retrouvé dans une pièce avec un gros robot qui m'a attaqué, je savais pas du tout comment je m'étais retrouvé là et j'avais pas du tout fait exprès, et en fait dès que tu commences à abandonner ce que les objectifs du jeu, à n'en faire qu'à ta tête, en fait tu vois que tout continue de fonctionner, tout continue d'exister, et c'est ça en fait que j'aurais aimé qu'ils mettent en avant. Bon, c'est dommage, mais par contre effectivement ça reste, tu vois, une espèce de petit musée, donc Prey, ça vaut le coup d'y retourner. En plus il doit coûter rien du tout aujourd'hui,
c'est facile de l'avoir pour pas cher, effectivement. Et bien écoutez, merci de nous avoir écoutés. On remercie une nouvelle fois Auteur d'édition qui a sponsorisé cet épisode. Vous pourrez retrouver le lien dans la description pour aller sur leur site. Vous verrez qu'il y a incroyable, plein de bouquins à découvrir, dont un sur The Witcher 3. On en a parlé un petit peu pendant cet épisode. Donc voilà,
et
on les remercie énormément.
Dead Cell et.
Ce sera au prochain épisode.
Et puis alors, pour deux Dead Cell achetés, j'ai un Diablo et.
Donc voilà, merci beaucoup. Vous pouvez aussi évidemment nous soutenir sur Patreon, parce que malgré tout c'est ça qui nous permet de continuer à faire Fin du Game. C'est vraiment le cœur, c'est vraiment le pilier de notre production. Donc on remercie les Patriotes, et puis voilà, on vous encourage à nous soutenir là-dessus. Vous pouvez aussi nous rejoindre sur le Discord, et puis on se retrouve dans deux semaines, j'espère, sans faute. Merci encore, ciao.
Salut.